Donc on va reprendre à la page 24, B1. On va faire une petite razara sur des choses qu'on a déjà étudiées. Le Maral raconte, a dit, à Ougavra, il y avait un homme, des Ashkar Arba Azouzé, qui a trouvé 4 zouz, donc le zouz c'était la monnaie de l'époque, c'était des dinars, des Tsaire Bezdina, qui étaient enveloppés dans un drap, dans une bourse on aurait dit aujourd'hui, Ujdou Benar Biran, et qui étaient jetés dans le fleuve de Biran. Ah, donc il y avait un fleuve qui était, il y avait un fleuve qui s'appelait le fleuve de Biran. Et une personne a trouvé dans le fleuve de Biran 4 pièces enveloppées, attachées dans une bourse, dans un drap. Atalekame de Rav Yehuda. Il est venu devant Rav Yehuda pour poser la question, pour lui dire qu'est-ce que je fais avec l'argent que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il lui a dit Yaakov Rav Yehuda?
Il lui a dit, va annoncer à la trouvaille.
À Marley, il lui a dit Rav Yehuda, Zil Achiz, va annoncer. Quelle question on peut se poser sur ce que Rav Yehuda a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit Rav Yehuda? Rav Yehuda a dit, tu vas proclamer.
Il y a un siman ou il n'y a pas un siman?
Alors, justement.
Il y a deux problèmes.
Alors, c'est quoi les deux problèmes qu'il y a?
Bah, le premier, on a dit qu'on s'est jeté à la mer, donc c'est pour tout le monde.
Bien, bien. Ah, voilà. Donc là, déjà, a priori, c'est comme la mer.
Voilà. Et le deuxième. Il n'y a pas de siman, à moins que...
Non, là, il y a un siman.
Par le nombre.
Oui, d'abord, on peut avoir un siman par le nombre, on peut avoir un siman par la manière comment c'est attaché, on peut avoir beaucoup de simanim ici. Mais il y a la première question que vous avez posée, c'est la question la plus forte, que la Gemara pose tout de suite, elle dit, mais veha, zutoshayam ou? La Gemara, elle dit, mais voilà, zutoshayam ou, ça veut dire quoi? C'est considéré comme le fond de la mer. Et qu'est-ce qu'on a dit? Quand une personne trouve un objet au fond de la mer, même s'il a un siman, quel est le din?
C'est à lui. Parce qu'il a forcément...
Parce que le propriétaire a forcément fait Yehush, il a forcément abandonné.
Donc, c'est une rivière, là, c'est pas une mer.
Attendez, oui, ah, voilà. C'est une rivière, mais a priori, quelqu'un qui fait tomber un objet au fond de la Seine, il compte pas le retrouver.
Oui, mais c'est un endroit qui est fréquenté.
Où fréquenté?
Il y a des gens qui travaillent, qui font du commerce, etc. Puisque c'est là qu'il a perdu, c'est vraiment, il est en train de travailler.
Oui, mais c'est au fond de la Seine. Qui va le chercher au fond de la Seine?
Hein? C'est pas
prendre
la scène.
Bon, alors on va voir ce que la Gemara dit. Donc la Gemara pose la question, elle dit Veha, Zutoshayam ou? Voilà. C'est considéré comme Zutoshayam, c'est-à-dire c'est considéré comme un objet qui est au fond de la mer. Comme on a dit que même s'il a un siman, la Torah nous permet de le prendre. Alors. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? La Gemara répond, elle dit Shaniner Biran. Tu as raison. Si ce n'était pas le fleuve de Biran, tu as raison qu'on aurait dit que.
C'est comme la mer.
Effectivement, c'est comme la mer. C'est comme la Seine. Quelqu'un qui fait tomber, je ne sais pas si vous avez déjà fait tomber un objet à la Seine.
À la Seine, non.
D'accord.
Pas encore.
Celui qui fait tomber un objet à la Seine, il ne compte pas le retrouver. Il ne compte pas le retrouver.
Ça dépend de l'objet.
D'accord. Bon, bien sûr, s'il fait tomber, même s'il fait tomber sa Rolex, il ne va pas envoyer un...
tomber sa femme.
Tu sais, chaleur. Alors, donc la Gemara a dit, si ce n'était pas le fleuve de Biran, tu as raison que Rav Yehuda, qu'est-ce qu'il aurait répondu? Si ce n'était pas le fleuve de Biran, Rav Yehuda aurait répondu, tu peux le prendre. Pourquoi Rav Yehuda dit, tu as proclamé? Parce que le fleuve existe, le fleuve de Biran. Et qu'est-ce qu'il a ce fleuve? C'est un fleuve qui est particulier, qui n'est pas comme les autres fleuves, puisque c'est un fleuve qui avait en lui des pierres et des barrières, qui servaient à capturer les poissons facilement. C'est-à-dire que c'est un fleuve qui avait des obstacles, des barrages. C'est un fait. Là, c'est pas une...
Même comment retourner dans
le... Attendez. Justement.
Dans le filet, il est tombé dans le filet.
C'est un fleuve, il n'avait pas de filet. C'est un fleuve qui avait beaucoup d'obstacles. À quoi servaient ces obstacles? C'était pour capturer les poissons plus facilement. Et alors, explique la Gemara, Kevin des Midkil, puisque donc dans ce fleuve-là, Kevin des Midkil, puisqu'il y a des obstacles, d'accord. Et donc, puisqu'il y a des obstacles, donc le fleuve ne pourra jamais emporter les objets plus loin que les obstacles. C'est-à-dire qu'un objet tombé, il peut pas aller bien loin. Donc je donnais l'exemple au cours dernier, je ne sais pas si vous avez déjà vu un torrent. Quand dans un torrent, vous pouvez faire tomber un objet, mais vous le récupérez très facilement. Mais déjà arrivé
ouais,
à la montagne.
Tu le
retrouves très facilement. Pourquoi? Parce que comme dans un torrent en général, il y a toujours des obstacles, des pierres, des choses comme ça. L'objet, il avance pas loin. Bien que le torrent, il va être très très vite. Un torrent, ça avance très très vite. Mais comme il y a des obstacles, l'objet, il s'arrête quelques mètres plus loin, obligatoirement. C'est obligé. À moins que c'est un torrent qui a des pierres très basses. Mais normalement, ou bien c'est le moment de la fonte des neiges. Mais normalement, on récupère tout de suite. Donc la même chose. La Gemara nous répond et nous dit ici qu'en vérité... Pourquoi Rav Yehuda a dit à la personne de le prendre? Puisque on parle d'un cas ici, du fleuve de Biran, que puisque Kevin de Midkil, puisque le fleuve à des barrages. Le Miyahesh, les propriétaires ne l'ont pas abandonné. Pourquoi les propriétaires ne l'ont pas abandonné?
Il n'a pas un siman particulier.
Si, il a un siman.
Il a un siman.
On avait expliqué, quand tu n'étais pas là, on avait expliqué que le nombre de pièces peut déjà être un siman. Alors, deux secondes. Donc on va voir ce que dit la Gemara. Je conclue. Donc on a dit Kevin des Mitkil, le Miyahesh. Puisque c'est un fleuve qui a des barrages, le Miyahesh, là il n'y a pas de siman dans le Makom, puisque l'objet il a bougé. Le Miyahesh, la personne n'a pas abandonné son objet. Pourquoi? Explique Rashi. Il dit pourquoi le propriétaire n'a pas abandonné? Parce qu'il se dit, le propriétaire, certainement que mon objet va être, pas certainement, c'est sûr statistiquement que mon objet va être retenu par un des barrages. Et Rashi nous apprend qu'on avait l'habitude de nettoyer ce fleuve tous les quelques mois. C'est-à-dire quoi le nettoyer? C'est-à-dire on faisait un barrage. Quand on fait un barrage, l'eau descend. Pourquoi on faisait ça? Puisque naturellement, le problème qu'on a dans tous les torrents, dans tout ce genre de fleuve, c'est que puisqu'il y a des obstacles partout, donc ça attrape toute la saleté, ça devient très très sale. C'est un problème qu'on a.
Il devait y avoir un cahier des objets perdus.
Ah, alors voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tous les quelques mois, on fait un barrage. On fait un barrage au début de ce fleuve.
Un état des lieux.
D'accord? Et le fleuve donc va baisser. Et une fois que le fleuve va baisser, on le nettoie. Et après, on enlève le barrage.
Ça
s'appelle
une écluse.
Une écluse, très bien. Une écluse?
Oui.
D'accord, avec un E ou un... Avec un E au début, oui?
Oui.
D'accord.
Trouver la femme d'un tel.
Donc, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit que le propriétaire n'abandonne pas son objet. Parce que le propriétaire compte le retrouver. De toutes les façons, tous les quelques mois, on fait ici une écluse. Donc là, je vais attendre qu'on fasse l'écluse, je vais récupérer mon objet.
Du coup, il n'y a plus d'eau là, donc...
Ah oui, quand il n'y a plus d'eau, tu retrouves tout de suite. L'objet est apparent.
De toute
façon, la règle,
elle est
évidente. Ça veut dire que s'il y a possibilité de retrouver l'objet, donc il n'est pas abandonné, et s'il n'y a aucune possibilité,
d'accord,
il est abandonné.
D'accord, ok. Mais nous, on a amené l'histoire. Ouais. C'est pour ça qu'on a amené l'histoire avec Rav Yehuda.
Qu'est-ce qui nous amène cette histoire de Rav Yehuda alors? Parce qu'on aurait déjà pu le...
Non, pour l'instant, il nous amène rien du tout. Alors, pourquoi? Bonne question. A priori, pour l'instant, il nous amène rien du tout. On n'a rien appris. Maintenant, on va voir pourquoi la Gemara a amené cette histoire. Parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on avait parlé, on avait posé la question. On avait dit, est-ce que ce principe-là s'applique que dans une ville où il y a une majorité de non-juifs, ou même si c'est dans une ville dans laquelle il y a une majorité de juifs?
Statistique, venons-en en fait.
Alors, la Gemara a dit, « Veha, dans le cas de Rav Yehuda, Veha, Rouba, Kenani, Minou. » Dans le cas de Rav Yehuda, la majorité des gens qui se trouvaient dans cette ville-là, c'est un fait encore une fois, on ne peut pas discuter sur ça, c'était des Cananéens. Cananéens, ça veut dire c'est une expression pour dire des non-juifs. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a vu? Que Rav Yehuda a demandé de proclamer l'objet. Shma Mina, de là j'apprends, que En alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar afilu berov Knaanim. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Shimon ben Elazar? Rabbi Shimon ben Elazar avait dit que si c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de non-juifs, qu'est-ce qu'on fait? T'as pas besoin de proclamer, tu peux le prendre. Là, on a vu clairement dans le cas du fleuve de Biran. Ce fleuve de Biran, c'était un fleuve qui se trouvait dans une ville dans laquelle la majorité des gens étaient des Cananéens. Et pourtant, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit, il faut proclamer. Puisque le propriétaire compte le retrouver. Donc de là, j'apprends que même si c'est une ville comme Paris, dans laquelle il y a une majorité de non-juifs, et que normalement, on n'a pas l'obligation de rendre une perte à un non-juif, d'accord, c'est pas obligé selon la Torah, c'est un kiddush hashem, mais c'est pas obligé. On voit que il faut quand même le faire. La Gemara repousse cette preuve. Elle dit non, on ne peut pas dire comme ça. Elle dit Shani Ner Biran, c'est différent le fleuve de Biran, de Israël Sarhoulé. Ah. Qui c'est qui faisait l'écluse? C'était qui? C'était les juifs. Donc là c'est différent. Nous, qu'est-ce qu'on a essayé de prouver? On a essayé de dire, à proximité du fleuve de Biran, habitent majoritairement des non-juifs. Donc, on a voulu amener une preuve d'ici que, même si la majorité des habitants de la ville étaient non-juifs, il faut quand même proclamer l'objet.
Donc, le rendre.
Qu'est-ce qu'on te répond? T'as dit non, c'est pas la même chose, ce cas ici. Pourquoi? C'est pas une preuve. Parce que dans le cas de Rav Yehuda, c'est vrai que la majorité des habitants dans les villes avoisinantes, le Nahar Biran, le fleuve de Biran, c'est des non-juifs. Mais les juifs qui avaient le contrat d'endiguer, donc de faire l'écluse, c'était qui? C'était des juifs. Les gens qui faisaient, c'était des juifs. Donc puisque c'est des juifs, Donc, Vegam Israël Karoulé. Donc, c'est pour ça que Kevan de Israël Sarkoulé, Imour, mais Israël Nafal. Là, on a encore un troisième paramètre. C'est quoi le troisième paramètre? C'est que peut-être que l'objet est tombé pendant l'écluse. Eh oui. C'est très bien quand on est occupé pendant les travaux publics, on peut perdre des objets. Donc peut-être que l'objet a été perdu par les gens qui faisaient les travaux publics, par les gens qui avaient ce contrat. Donc, les Kevan de Israël Karoulé et l'Omiyash, c'est pour ça que la personne n'abandonne pas. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on a fait ici? Pour résumer, on a amené une histoire avec Rav Yehuda. Une histoire avec Rav Yehuda, c'est un cas très particulier, c'est un cas dans lequel c'est un fleuve avec des barrages. Donc le propriétaire n'abandonne pas. On a cru qu'il s'agissait d'un cas que la majorité des habitants de la ville étaient des non-juifs, et c'est effectivement le cas. Seulement, et donc avec ça on a voulu prouver que même si la majorité des habitants de la ville est des non-juifs, il faut quand même rendre l'objet. Donc comme Paris, même si je trouve aux Champs-Élysées que la majorité c'est des non-juifs, je dois le rendre. Donc moi, on te dit c'est pas une preuve. Pourquoi c'est pas une preuve? Parce que ce fleuve-là est particulier, parce que ceux qui avaient le contrat de nettoyage étaient des juifs. Donc statistiquement, il y a plus de chances que c'est tombé d'un juif que c'est tombé d'un non-juif. C'est pour ça qu'on est obligé de le rendre. Quel serait le din? Bon, donc ça veut dire maintenant de se donner, si on pose la question, quel serait le din? Que serait le din? Si c'est pas le cas, si ceux qui avaient le contrat de nettoyage étaient des non-juifs, qu'est-ce qu'aurait dit Rabbi Yehuda? On ne sait pas. Il n'est pas là pour nous le dire. Donc, est-ce qu'on est capable de dire, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar? Rabbi Shimon ben Elazar a dit, si la majorité c'est des non-juifs, tu le prends, il n'y a pas de problème. On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas de preuve. Parce que le cas de Rabbi Yehuda, c'est un cas spécifique. C'est un cas dans lequel la majorité était des juifs. Donc, c'est toujours pas le cas de Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, pour l'instant, on n'a rien appris. Gmara, elle continue, Gmara, elle raconte. Elle dit, Rabbi Yehuda...
Excuse-moi, on cherche quoi comme preuve?
On cherche à savoir, qu'est-ce qui se passe dans un cas dans lequel il y a une on a trouvé un objet dans une ville dans laquelle la majorité sont des non-juifs, comme Paris. Est-ce que je peux prendre l'objet ou est-ce que je ne peux pas prendre l'objet? Rabbi Shimon ben Elazar a dit tu peux prendre l'objet. Non, nous on ne sait pas est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ou pas. On ne sait pas.
Mais on a répondu
à l'époque de la Mishnah, il y avait une machloket. Maintenant nous on essaye de savoir, nous 400 ans plus tard à l'époque de la Gemara, on essaye de savoir comme qui la halakha est tranchée. On ne sait pas. Alors, on essaye d'amener des preuves.
On n'a pas dit que statistiquement,
oui,
justement,
justement.
On vient de dire.
D'accord, justement. Rabbi Shimon ben Elazar a dit comme ça. Donc, pour l'instant, on ne sait pas comme qui la halakha est tranchée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'a pas puisqu'on ne sait pas comme qui la halakha est tranchée, on va essayer d'amener des histoires qui se sont passées.
Tu m'as dit, vous avez fini le...
Le quoi?
Vous avez fini, là, le...
Non, voilà, maintenant, on va finir, là. Aujourd'hui, on va finir.
Vous n'avez pas conclu la halakha encore?
Aujourd'hui, on va finir. Donc,
t'as dit qu'on devait changer de...
De Mishnah, non, Mishnah. On va faire la semaine prochaine la Mishnah. Là, je fais Chazara, parce que...
Chazara, c'est pas conclusion, Chazara.
Non, Chazara, c'est révision.
Révision.
D'ailleurs, on a fini ici.
Donc, vous avez pas la halakha, là?
Oui, à la fin, on aura la halakha, bien sûr.
Vous l'avez, donc?
Bien sûr. On va pas te dire.
Ils ont oublié.
Quoi, ils ont oublié. Il a oublié, parce que lui, il sait.
Il.
Bon. Donc, on dit comme ça. Donc... On a essayé, donc c'est ça le problème. Le problème c'est, on ne sait pas quoi faire. Est-ce que je garde l'objet, ou est-ce que je garde l'objet, ou est-ce que je ne garde pas l'objet? Puisqu'on n'a pas des, on va essayer de chercher des éléments de preuve. Comment on va trouver des éléments de preuve? On va essayer de chercher des éléments de preuve dans des histoires qui se sont passées. Des histoires qui se sont passées, et de ça on va essayer de prouver. On a essayé d'amener une preuve d'une histoire de Rav Yehuda, mais on a montré que ce n'était pas une preuve. Pourquoi? Puisque c'est un cas particulier. C'est un cas qui parlait dans lequel ceux qui avaient le contrat de nettoyage, c'était des juifs. Donc, on a toujours plus le concept d'un endroit qui est majoritairement fréquenté par des non-juifs, puisque cet endroit était majoritairement fréquenté par des juifs, puisque ceux qui avaient le contrat de nettoyage sont des juifs. Donc, on n'a toujours pas de preuves. On va essayer d'amener une autre histoire. Vara raconte, elle dit, Rav Yehuda, Avashakil Veazil, Bata, Batre de Marshmuel. Ce même Rav Yehuda, on raconte, qui marchait derrière Marshmuel. C'est une expression dans la Gemara, quand on dit marcher derrière quelqu'un, ça veut dire, quand on dit marcher derrière quelqu'un, ça veut dire que c'était un élève qui était avec son rave. Il y a une halakha que un élève n'a pas le droit ne marche pas à côté de son rave, il marche toujours un petit peu derrière son rave, par kavod. C'est toujours le rave qui marche en premier. Bon, c'est comme ça. D'ailleurs, à l'époque, il y en avait qui avaient...
Le rave, il marche vite, généralement.
D'ailleurs, à l'époque, je sais pas si on a toujours cette habitude aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait qui avaient l'habitude que quand un mari et une femme marchaient en même temps, toujours le mari marchait un petit peu devant la femme. C'est toujours la femme, par kavod, elle laissait son mari marcher un petit peu devant. Je sais pas si on fait toujours comme ça aujourd'hui, mais...
On fait.
Hmm?
Bien sûr qu'on fait.
On fait comme ça, bon, peut-être.
Pour ouvrir la porte, tenir la porte.
Aujourd'hui, c'est le contraire.
Bon, ça y est.
Oui.
Ouvrir le passage.
Donc, on dit comme ça.
C'est plus pour ça que pour le...
Que par Kavod. Bon, je sais pas. Ça, c'est une autre question.
Le Kavod, il s'est inversé.
Donc, Rav Yehuda, Vachakil, Vehazé, Batré, Demarchmuel. Rav Yehuda, il marchait, donc il prenait les affaires et il marchait derrière Marchmuel. C'est-à-dire que qui était le maître ici?
Marchmuel.
Maître Shmuel. Où il marchait? Il était en train de marcher, Beshuka, Debe Daïsa. Il marchait, Beshuka, Debe Daïsa, dans un marché dans lequel on vendait, Bedaïsa, du blé concassé. Bon. C'est un marché spécialisé dans le blé concassé. Il y avait des marchés comme ça à l'époque. Blé concassé.
Pour les Marocains.
Alors, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il y avait dans ce marché? Dans ce marché-là, comme Rashi nous dit, il y avait beaucoup de monde. C'est un marché avec une forte affluence. Bon. Donc, il marche, il n'y a rien. Bon, il marche. Il marche dans la... Ils sont en train de marcher, ils sont en train de passer au marché. Il marche au marché. Alors, à Marley, donc il y a l'élève Rav Yehuda, qui pose la question à son maître Shmuel. Il lui dit, Matsakan Arnaki. Il pose la question, il lui dit, Rav, si quelqu'un y trouve ici un portefeuille, et ils n'ont rien trouvé, mais ils posent la question. Ils posent la question, c'est-à-dire ils le mettent devant une situation. C'est comme on a à l'école. À l'école, des fois, on vous pose une question, on vous met devant une situation, et on vous dit qu'est-ce que vous faites. Ou bien comme à l'auto-école. On vous pose une situation, on vous dit petit A, petit B, petit C, petit D. Je passe, je passe pas. Là, Rav Yehuda pose la question à Marchmuel, il lui dit, voilà, Rav, imaginez-vous que maintenant on trouve ici un portefeuille.
J'en ai un procédé.
Attendez.
Ça brûle.
Alors. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que je fais? Maou, quel est le dîme? Donc a priori, comme Rashi nous dit, c'était un marché dans lequel la majorité des passants étaient non-juifs.
Des non-juifs.
Et c'est pour ça qu'il a posé la question.
D'où tu sais ça?
Ça c'est l'orage qui explique. D'accord, donc il dit que la majorité des passants étaient des non-juifs. Et donc là, c'est là la question qui se pose. Alors, qu'est-ce qu'il répond à Viuda? Rav Yehuda, c'est celui qui possède l'élève. C'est Shmuel. Donc Matsakan Arnaki, s'il a trouvé un portefeuille, Mao Kaleludin, Amarle, Shmuel lui répond, Arelu Shelo. Il dit, il peut le garder. Pourquoi il peut le garder? Parce qu'il lui répond, il lui dit, puisque la majorité des passants dans cette ville sont des non-juifs, même s'il y a un siman dans le portefeuille, puisqu'il y a beaucoup, il y a une forte affluence dans ce marché-là, on considère que le propriétaire a certainement abandonné son objet.
Ah. On a dit la loi que quand il y a un,
donc, a priori,
quand il y a un siman...
C'est ça le chidouche. Le chidouche qu'on avait dit de Rabbi Shimon ben Elazar. Rabbi Shimon ben Elazar avait dit que quand c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, même s'il y a un siman, on peut le garder. Et oui, c'est ça la nouveauté. C'est très fort ce qu'elle a dit Rabbi Shimon ben Elazar.
Et pour quelle raison? Parce que c'est...
Parce qu'on considère que le propriétaire l'a déjà abandonné. Le propriétaire, il dit, je l'ai perdu au marché, je vais jamais le retrouver.
Mais quand il y a un siman...
Oui, mais même s'il y a un siman.
Pourquoi il va désespérer?
Justement, c'est ça la logique de Rabbi Shimon ben Elazar. La logique de Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, comme il y a des gens, comme il y a Inche de Lama Ale, il y a des gens de mauvaise fréquentation qui se baladent dans le marché, il y a beaucoup de monde qui se balade dans le marché. Donc certainement qu'il y a une personne qui va prendre mon objet, qui jamais va proclamer. Donc j'abandonne mon objet.
Et tout au début, on n'avait pas vu l'histoire de siman.
Oui, tout au début, on avait vu l'histoire de siman. On avait dit, c'est dans un endroit dans lequel il y avait des juifs. Et des juifs, on avait dit, c'est dans un cas où il y a des juifs, des juifs de bonne fréquentation. C'est-à-dire, en vérité, le concept ici de Elou Metziot, c'est qu'à chaque fois, on essaye de savoir, est-ce que le propriétaire initial l'a abandonné ou pas. C'est ça la clé. Le reste, on n'en a rien à faire. Pour savoir est-ce qu'un objet m'appartient ou pas, il faut essayer d'analyser, statistiquement, est-ce que le propriétaire initial, il n'est pas devant nous, le propriétaire initial, sinon il l'aurait rendu. Enfin, est-ce que le propriétaire initial l'a abandonné ou pas?
D'analyser statistiquement, c'est pas pareil que d'analyser...
On peut pas savoir, il est pas devant nous le propriétaire. Il a perdu.
On peut savoir.
Comment tu peux savoir?
Il y a les statistiques, et il y a ce que le propriétaire y pense.
Tu as trouvé, M. Daniel, tu as trouvé un portable.
Statistiquement, s'il y a un
enfant...
Écoute bien. Monsieur David,
tu fais un enregistrement.
Tu as trouvé un... Imagine-toi que tu as trouvé un portable Samsung dernière génération dans une patinoire.
À Marrakech.
Ça peut arriver, non?
Ça peut arriver.
Très bien.
Justement.
Parlons-en.
Voilà, il va le garder.
Imagine-toi que tu as trouvé un portable Samsung dernière génération dans une patinoire.
Mais le cas, il n'est pas simple.
Bon. Est-ce que tu peux savoir est-ce que le propriétaire initial l'a abandonné ou pas?
Moi, je dis non.
Est-ce que je peux savoir?
Oui.
Non, je pense qu'il a une chance de le retrouver là, bon. Dans la minute.
Ah, dans le cas du portable, c'est un bon exemple. Parce que le portable, la personne, d'abord, il va essayer, premier réflexe, qu'est-ce qu'il va faire ?
Il va,
essayer d'appeler. Il bon. Essayé de... Donc c'est pas un bon exemple.
Il y a un siman, mais on dit qu'on ne tient pas compte du siman.
Oui.
Quand on est dans
le chidouche de Rabbi Shimon ben Elazar, c'est que dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, Rabbi Shimon ben Elazar est parti plus loin que ça.
Excuse-moi, Mendy.
Rabbi Shimon ben Elazar a dit, même si c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs, ouais. Si c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, tu peux garder l'objet. On considère que le propriétaire l'a abandonné.
Il ne tient pas compte du siman.
Tient pas compte du siman.
Dans le okay. cas du portable.
Bon.
Tu poses la question statistique.
Nous, on essaye de savoir, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar.
Les 10, ils ne te répondent pas pareil.
Alors, a priori, Rabbi Yehuda, lui, il a une autre...
Qu'est-ce qu'il a répondu ici, Rabbi Yehuda? Donc, on a repris le cas ici. Rabbi Yehuda a dit... Donc, ils allaient dans un marché. D'accord ? Un marché à forte affluence. Forte affluence de juifs ou de non-juifs ?
Alors,
Monsieur Yaakov, forte affluence de juifs ou de non-juifs ?
De non-juifs.
Rav Yehuda pose la question à Shmuel, son maître qui est avec lui. Il lui dit, si quelqu'un a trouvé ici un portefeuille, qu'est-ce qu'il fait avec ?
Il le garde.
Alors, il répond, il lui dit, arrête louchez-le, il le garde. Et comme explique Rashi, même s'il y a un siman, il peut le garder. Pourquoi ? Puisque comme c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on considère que le propriétaire l'a abandonné.
Avec une carte d'identité
donc,
dedans.
Donc,
il va à l'encontre.
C'est le même cas que le portable.
De la position de Rabbi
Au contraire.
Elazar.
Il va comme Rabbi Shimon ben Elazar.
Quoi comme ?
Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que quand c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, quand, même s'il y a un siman, on peut garder l'objet.
D'accord.
C'est ce qu'il dit ici, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Shmuel lui a répondu la même chose.
Donc c'est une preuve.
Il lui a dit, tu peux garder l'objet.
C'est une preuve.
Donc, oui. A priori, mais par contre, on n'a pas répondu entièrement à la question, puisque Rabbi Shimon ben Elazar a dit que c'était la même chose que ça soit une majorité de juifs ou une majorité de non-juifs. Voilà. Peu importe. Alors, là au moins, on a répondu à une partie de la question. On a répondu que quand c'est une majorité de juifs, a priori, je dis bien, parce que maintenant, c'est pas simple, a priori, tu peux garder l'objet.
Non-juif.
Non-juif, oui. Maintenant, continue. Pardon, c'est pas fini. Elle dit, attendez, c'est pas simple. Elle dit, Ba Israël, Venatan Bas Siman. Si un juif est venu et il a donné un siman. Ah.
Voilà.
Donc là, c'est toujours l'élève qui pose la question, Rik, d'accord, il continue à poser la question. Enfin, c'est un vieux d'art. Ouais.
Il
pose la question. Et il dit.
C'est un autre cas, maintenant, c'est un juif.
Mais il faut comme ça insister au Rav. Donc il pose la question.
C'est bien.
Il lui dit Va Israël, Zelatan Bas Siman. Il lui dit si maintenant, un juif, il vient et il te donne un siman. C'est-à-dire un juif qui entend que tu as trouvé un porte-monnaie. Et il vient et te dit, j'ai entendu que vous avez trouvé un porte-monnaie, sachez que le porte-monnaie que vous avez trouvé, voilà, moi je l'ai perdu, il y avait tant de pièces dedans. Il donne un siman, clair. Il y avait mes initiales, on porte tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je fais ?
Tu le rends.
Khayav,
il n'est pas tenu de lui rendre. Alors, du fait que la... le Rav...
Khayav,
le Rav, il a tranché.
Voilà.
Que dans un domaine public à majorité...
On considère que le propriétaire
a abandonné. Et donc, il n'est pas en droit de lui
rendre. Donc, il pose une question, c'est Daniel. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il va répondre ici, Shmuel ? Shmuel le dit, Amarle, il lui a dit, Khayav, la Khazir, il a l'obligation de rendre. Alors, Rav Yehuda, il pose la question, il dit, tarté, les deux ? Pas possible, il y a une contradiction. Il y a un problème ici. Tu viens me dire au début que tu considères que comme on est dans un endroit dans lequel il y a une majorité de non-juifs, tu considères que le propriétaire initial l'a abandonné. Donc il l'a abandonné, ça veut dire que maintenant il est à moi. Je l'ai trouvé, il est à moi. Même si le propriétaire après, initial, par X ou Y raison, par Ashgacha Pratit, il m'a retrouvé. Mais l'objet doit toujours m'appartenir puisqu'il l'a déjà abandonné. Vous comprenez ?
Non,
si j'ai un stylo, regardez.
Les données ont changé.
Non, ça change pas. Regarde. Imagine-toi que j'ai un objet. Écoutez bien,
on a retrouvé
Monsieur David, écoute bien ce que je dis. Imagine-toi que j'ai un objet ici. J'ai un objet, d'accord ? J'ai une sidra dans la main. Je marche dans la rue, je la fais tomber. D'accord ? J'ai un objet, je fais tomber mon objet, je le pose par terre. Mon objet, il tombe. J'abandonne l'objet. Très bien. Quelqu'un le trouve, qu'est-ce qu'il fait ? Statistiquement, il pense que je l'ai abandonné, il le prend. Par une circonstance des choses, cette personne-là vient un jour dans ton magasin, Monsieur David, et tu le vois se balader avec le stylo que tu as perdu. Est-ce qu'il a l'obligation de te rendre ?
Parce que disent tes maîtres, non.
Normalement, non. Parce que c'est fini. Une fois que j'ai abandonné un objet, je peux plus le récupérer. Même si Dieu a fait par la suite que j'ai...
mes initiales sur le stylo.
Non, c'est trop tard. Si on considère que j'ai abandonné l'objet, c'est fini, je peux plus le reprendre.
Tu vois, c'est marqué le contraire.
Tu te pointes avec le stylo.
Ah.
Il y a marqué David Achuez là.
C'est pas. Oui.
Je vais te dire, c'est mon nom, c'est mon stylo.
Mais il n'est pas en droit.
Mais
d'après la situation, il n'est pas en droit.
Je répète la question. Je répète la question. Monsieur David, je répète la question. Il y a un stylo dans lequel c'est écrit. Voilà, dans lequel c'est écrit Monsieur Daniel Galin. Enfin, non, moi, je connais pas Monsieur Daniel Galin.
Marquez ton nom, tu vas pas dire.
D'accord. Écoutez bien.
Il est en droit de pas te le rendre.
Écoutez bien ma question.
Ouais, mais non.
Non. C'est une question très forte ce qu'on pose ici.
C'est pas logique.
Je trouve un stylo dans lequel c'est écrit Monsieur Daniel Galin aux Champs-Élysées.
Amen, amen.
D'accord.
Aux Champs-Élysées.
Aux Champs-Élysées.
Si j'ai un stylo à mon nom, c'est que.
Je trouve un stylo, c'est écrit Monsieur Daniel Galin.
Ça coûte pas cher.
Didi, d'accord. C'est écrit.
Didi, j'ai vraiment
fait ça. Monsieur Daniel Galin. D'accord.
Non, par contre.
Attendez, j'ai pas fini l'exemple.
Les lettres qui étaient
suivies. Donc, j'ai trouvé Dolce & Gabbana, c'est ça?
Hein? Non, parce que dans la Torah, c'est avec les...
Daniel Galin.
Il va chez la marque Dolce & Gabbana, il y a toutes les amours. Mes initiales.
Les lettres qui se suivent dans la Torah, elles ont un rapport en
communication. Ah oui, attendez, je conclue. Donc, je trouve un objet, je trouve un stylo dans lequel, un Mont Blanc, dans lequel il y a écrit les
Daniel
initiales
Galin.
Daniel Galin, DG, avec voilà, les initiales. Maintenant, moi, je connais pas Daniel Galin. Bon, donc qu'est-ce que je fais avec l'objet? Je peux le prendre ou pas?
Oui.
Je peux le prendre, je prends l'objet. Quelques semaines plus tard, par hasard, je garde à pratique, je passe au 13e, je viens un jour, je vais écrire un chèque pour payer chez M. David, et là, M. David dit, mais mince, c'est mon stylo, ça, qu'est-ce que je fais, là? C'est mon stylo, là, celui qu'il a dans la main.
Ça me l'apporte ou pas?
D'accord. Qu'est-ce que je fais? Quelle est la halakha? Ce stylo, maintenant, une fois que M. Daniel l'a retrouvé, est-ce que ce stylo reappartient à M. Daniel, ou bien celui qui l'a peut le garder? Celui qui l'a, il peut le garder. Pourquoi? Parce qu'on considère que, statistiquement, M. Daniel a abandonné l'objet. D'ailleurs, on va en parler. Alors, c'est pour ça que Rav Yehuda pose la question.
Comme vous êtes un raciste pour faire...
Rav Yehuda pose la question. Ah, voilà. Rav Yehuda pose la question. Il dit, mais je comprends pas. Il dit, comment tu peux me dire, Shmuel, que si un juif il est venu, il m'a donné un siman, je dois le rendre? C'est pas possible. Tarté? Pas possible. Je dois pas lui rendre. Si tu me dis que tu considères qu'il a abandonné, donc, normalement, tu devrais pouvoir le garder. Qu'est-ce qu'il répond?
Tarté, ça veut dire quoi?
Tarté, c'est-à-dire les deux. Tu peux pas faire les deux en même temps. D'un côté, tu me dis que si je trouve l'objet, je peux le prendre. D'un autre côté, tu me dis, tiens, ça veut dire que tu considères que le propriétaire initial l'a abandonné. D'un autre côté, tu me dis, si quelqu'un qui vient te donner un siman, tu dois lui rendre.
Enfin, ça va pas ce que tu dis, parce que dans le premier cas, on a un commentaire de Rashi qui dit que c'est dans un cas où il m'a été donné un juif, et maintenant, il vient de dire, c'est un juif.
Non, je dis, si maintenant un juif vient te donner un siman.
Eh ben, tu dois lui rendre, il vient de
répondre. Non. Alors, tu dois lui rendre, mais c'est pour ça qu'il pose la question. Il dit, mais tarté, c'est pas possible.
Ah, oui.
Si tu considères que le propriétaire initial l'a abandonné.
Ah, c'est ce que je vous ai répondu la suite. C'est ce que je vous ai répondu.
Oui. Si tu considères, voilà, monsieur Daniel, aujourd'hui, il fait les questions et les réponses.
Ah, je peux aller boire un café.
Si tu considères que le propriétaire.
Un peu d'avance, là.
Si tu considères que le propriétaire initial l'a abandonné. Donc, comment tu peux dire que si on retrouve. Si par circonstance des choses, le propriétaire te retrouve, tu dois lui rendre? Tu dois pas lui rendre, ça y est, il m'appartient. Réponds la Gemara. Donc c'est pas la Gemara, c'est Shmuel qui répond à son élève. Amar, il lui a répondu, il lui a dit, tu as raison, tu poses une bonne question. Et quand je t'ai dit, dans le deuxième cas, que si un juif est venu, il a donné un siman, il faut lui rendre, de quel cas on parle? Lifni Mishurat Hadin, ça veut dire, on parle de mieux que le din. C'est-à-dire mieux que le din. Ça veut dire que, mieux que le din, ça veut dire que, tu as raison qu'effectivement, selon la stricte halakha, est-ce que j'avais l'obligation de rendre le stylo à M. Daniel Galin? Monsieur David,
non.
Est-ce que j'avais l'obligation de rendre le stylo?
Non.
C'est très fort. Ça veut dire que nous, on considère que statistiquement, tu as abandonné ton objet.
Mais c'est pas sûr qu'il a abandonné.
Oui. Si c'est pas sûr qu'il a abandonné, tu n'aurais pas pu le prendre dès le départ.
Surtout que c'est marqué son nom dessus.
Écoutez bien ce que
son nom, je vois pas.
Écoutez bien.
Il dit, je vais bien le récupérer. Il n'a pas abandonné.
Écoutez bien ce que je suis en train de dire.
Oui.
Si on considère que c'est pas sûr qu'il a abandonné, j'aurais pas le droit de le prendre.
En plus, au marché, généralement, tu vas t'en apercevoir.
Mais vous entendez ce que je veux dire? Si on dit que dès le départ tu peux le prendre, c'est-à-dire qu'on considère que tu l'as abandonné. Sinon tu n'aurais pas pu le prendre.
Oui, mais pourquoi on considère qu'on l'a abandonné?
Parce que statistiquement, on considère que quand une personne perd un stylo dans un marché, qu'on peut retrouver.
C'est pas sûr.
Quoi?
C'est pas sûr.
Bon.
Maintenant je peux venir te dire, c'est un marché où il y a beaucoup de goyim mais qui font du trafic avec les juifs, et que peut-être qu'ils ont...
Non, c'est pas le cas. Le cas ici, c'est une majorité de non-juifs.
Oui, mais alors...
Ça y est, on l'a dit.
Tu peux avoir une majorité de non-juifs qui est honnête,
ça va savoir. Quoi? Ça change rien. Si c'est une majorité de...
Le gars, il voit un stylo avec marque le nom, machin,
non,
etc.
Non, t'as pas compris.
Numéroté.
T'as pas compris. Si c'est une perte d'un non-juif, j'ai pas l'obligation de le rendre.
Oui, mais non.
Ah oui, ça, t'as oublié.
Ouais. Mais c'est pas terrible, hein.
Quoi ?
Il faut avancer parce qu'il faut...
Non. Je trouve que c'est pas terrible.
C'est pourquoi c'est pas terrible ? T'as pas l'obligation ? Ah, tu pars qui du Shechem, tu peux le faire, mais t'es pas une mitzvah.
Pour l'instant, on nous parle de que le juif, t'es une obligation morale peut-être d'aller au-dessus de la loi.
Alors attends, justement. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu ici ? Mara pose la question, elle dit Tarté, les deux, c'est pas possible, il y a un problème, il y a une contradiction. Qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, à Marley lui répond, il lui dit, Lifni Mishurat Hadin. Quand j'ai dit que, dans le deuxième cas, quand j'ai dit que tu as l'obligation de le rendre, tiens, Israël est venu te donner un siman, pourquoi je t'ai dit ça ? C'était Lifni Mishurat Hadin, ça veut dire c'est si tu veux faire mieux que le din. Si tu veux faire Kiddush Hashem, si tu veux sanctifier le nom de Dieu. Mais tu as raison que, halachiquement parlant, si tu vas à la stricte halakha, tu n'as pas l'obligation de le rendre.
Même si c'est numéroté,
même si tout ce que tu veux.
Ça me semble bizarre.
D'accord ? Pourquoi ? Puisque si les chachamim arrivent à une conclusion que le propriétaire initial l'a abandonné, comme va dire la Gemara après, même si le propriétaire dit « mais je ne l'ai jamais abandonné, en vérité je le voulais toujours oui. », d'accord ? Si les chachamim, si le bedin arrive à une conclusion, parce qu'il peut mentir aussi le propriétaire, il peut dire « je ne l'ai jamais abandonné » alors qu'en vérité il a abandonné.
Le bedin se prononce quand ?
D'accord ? Le bedin se prononce à ce moment-là. C'est là, Shmuel, c'est le bedin. Il se prononce le Bedin, qu'est-ce qu'il dit Shmuel ? Shmuel dit le Bedin dira à ce moment-là, si le Bedin est arrivé à une conclusion, attention, enlève-le. Si le Bedin est arrivé à une conclusion que le propriétaire initial a abandonné, même s'il y a pris un juif qui est venu qui m'a donné un siman, est-ce que j'ai l'obligation de lui rendre ? Non, j'ai pas l'obligation de lui rendre. Pourquoi j'ai pas l'obligation de lui rendre ? Parce qu'on considère que on considère que l'objet, maintenant c'est fini, le propriétaire initial a abandonné est à moi.
Bon. Excuse-moi, pour revenir sur le cas du portable, c'est le même cas que le marché.
Non.
Exactement pareil, parce que au marché tu fais tomber ton portable, d'accord ?
Exactement,
c'est quoi ? Tu vas l'apercevoir tout de suite.
Monsieur David, une personne qui perd un portable ne l'abandonne pas, parce qu'il compte le retrouver. En tout cas, les premières semaines.
Statistiquement, c'est sûr.
Non, bon, moi, ça t'est déjà arrivé de perdre un portable ? T'as déjà perdu un portable une fois ?
Je sais que j'ai trouvé.
Moi, j'ai déjà perdu un portable une fois. Je peux te dire. Là, j'avais perdu un. Non, c'était à l'époque, c'était un Nokia. 8310. Je venais de lâcher une semaine après que je l'ai acheté. Un petit portable comme ça, une semaine après que je l'ai acheté, une semaine après que j'ai fait l'abonnement, je l'ai perdu. Enfin, je l'ai perdu, apparemment, on a dû me le voler. Je sais pas, parce que je l'ai perdu. Je sais pas si je l'ai fait tomber ou. Je me rappelle, je l'avais chez moi à la maison, je descends en bas de la maison, d'accord ? Je descends en bas de la maison, à l'époque c'était quand on est le Beit Rabbad, il était juste en face de chez mes parents. Je descends, j'arrive au Beit Rabbad, le portable n'est plus là.
Je te parle pas du Siman en lui-même.
Attends, deux secondes.
Pas du portable.
Eh ben je peux te dire.
Du Macom,
je peux te dire que pendant plusieurs jours, d'abord j'essayais d'appeler le portable, je comptais le retrouver.
Et ça faisait quoi quand t'appelais ? Quoi ?
Ça tombait sur messagerie. Bon, mais ça voulait rien dire ça. Parce que peut-être je l'ai fait tomber dans l'ascenseur ou peut-être.
Mais nous on parle pas du Siman en soi, on parle pas du portable.
Donc justement.
On parle du Macom, l'endroit. On parle de la fréquentation.
Ça change pas ?
Si.
Non ?
On parle si c'est...
Parce que, encore une fois,
privé,
nous, on se base sur le propriétaire initial.
Après, on peut faire Kiddush Hashem, c'est sûr que...
Non, d'accord. Moi, je parle sur le propriétaire initial.
Le Bedin, il va statuer à chaque fois qu'on va venir le voir avec un objet.
Oui.
Il va dire, cet objet-là, je considère que le propriétaire, il a payé.
Voilà.
Et cet objet-là, je considère qu'il n'a pas payé.
Exactement.
Tu vois, donc c'est ça que ça veut dire.
Ça veut dire.
C'est pas a priori, c'est a posteriori, lorsque le Bedin a l'objet dans les mains, je considère que pour là, t'as payé où. Et là, t'as pas fait Yehouch, tu comprends ?
Une personne qui perd un portable ne fait pas Yehouch.
On espère toujours.
Non, pas ça. Le Bedin, il dit que la personne qui perd son portable, elle a pas fait Yehouch. Donc, c'est pas ces lois-là qui s'appliquent. Ces lois, elles s'appliquent lorsqu'un objet, le Bedin, décide que la personne, elle a fait Yehouch.
On peut considérer que, comme on est dans un rabbin de
non-juif... Attends, au bout de combien de temps tu fais Yehouch sur un portable ?
C'est un siman.
Non, le portable, tu fais pas Yehouch. Donc, ça,
l'objet,
tu
on le proclame pas.
Il faut vous laisser un certain temps. Alors, le Bedin va te dire... Je garde pendant un an,
si au bout
d'un an,
c'est pour ça que je vous ai posé la question.
Il a fait Yehouch, à ce moment-là, le portable est à toi.
C'est pour ça que je vous ai posé la question. Regardez, c'est pour ça que je vous ai posé la question.
C'est ça le laps de temps, en fait.
Regardez, il y a eu un casque qui a été fait il n'y a pas longtemps, dans les...
Tu ne feras pas Yehouch, parce que tu ne veux pas...
C'est ça le laps de temps, en fait.
Seconde.
C'est le temps que le propriétaire...
Il y a eu un casque qui a été fait il y a quelques temps aux Champs-Élysées. Tu ne
feras jamais Yehouch dans ta tête.
Vous avez entendu ? Aux Champs-Élysées.
D'accord. T'as fait Yehouch ?
Une seconde.
À un moment donné,
hein. Et il t'appartient alors, tu peux le garder.
J'ai fait Yehouch qu'au bout de 2-3 semaines.
2-3 semaines. Et combien, la fin donne combien de temps pour faire Yehouch ?
Mais non, ça change pas. Celui qui l'a trouvé, au moment où il l'a trouvé,
oui.
D'accord ? Au moment où il l'a trouvé, il pouvait pas le prendre. Il pouvait seulement le prendre, il devait proclamer.
Voilà.
Il devait proclamer, mettre une annonce. Il devait attendre, il dit celui qui l'a perdu, il peut le retrouver avec le numéro de série.
Par voilà, c'est ça.
Très bien. Il attend 3 semaines celui qui l'a trouvé. Si au bout de 3 semaines, si, par exemple, je donne un exemple, après il faut estimer, à peu près 2-3 semaines pour un portable.
Voilà.
Si au bout de 2-3 semaines, la personne n'a pas, il n'y a personne qui est revenu. Donc là, on considère que le propriétaire initial
n'a pas de preuve de ce qu'on ramène.
Si le propriétaire initial l'a abandonné, là, on considère que, on considère que certainement le propriétaire initial l'a abandonné,
donc
que
il tu peux le prendre.
Il est à toi.
D'accord.
Mais tant que trois semaines ne sont pas passées, un portable, c'est un siman mouvhak. On va voir tout de suite.
Donc la clé, c'est le propriétaire qui paye où.
Donc tu vas avancer.
Mais ça, c'est dans le cas, ça se passe entre lui.
Donc on résume. Donc dans l'histoire de Rav Yehuda et Shmuel, qu'est-ce qu'a dit Rav Yehuda?
Chacun, il a sa halakha.
Qu'est-ce qu'a dit Rav Yehuda?
Non, il y a la halakha.
Rav Yehuda a dit, si on a trouvé un portefeuille dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence de non-juifs, quel est le din? Il y a aussi des juifs, mais la majorité sont des non-juifs. Quel est le din? Le din est je garde l'objet, même s'il y a un siman. Quand?
Pourquoi?
Maintenant.
Pourquoi?
Puisqu'on considère que le propriétaire initial l'a abandonné.
Même si c'est un portable.
Non, c'est ce que je te dis. Parce que dans ce cas-là, on parle que le propriétaire initial l'a abandonné. C'est un objet qu'on estime que le propriétaire initial a abandonné.
D'accord.
Ouais. Très bien. Mais si c'est un objet qu'on pense que le propriétaire initial n'a pas abandonné, par exemple aujourd'hui, les gens quand ils perdent un objet, ils comptent sur le sens des objets trouvés, pendant quelques semaines au moins. Donc t'as pas le droit de le prendre. Mais pas à moi. J'ai pas le droit de le prendre. Encore plus quand c'est un portable, il y a un numéro de série, on trouve très facilement le propriétaire.
On espère, souvent on espère, mais la réalité de la
chose... Tant que le propriétaire initial statistiquement n'a pas abandonné, je n'ai pas le droit de le garder pour moi. J'ai le droit de le prendre, de proclamer, mais j'ai pas le droit de le garder pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu Rav Yehuda? Rav Yehuda a dit, tu peux prendre l'objet. L'objet, tu peux le prendre. Mais, dans ce cas-là. Mais il a dit, mais si maintenant, s'il y a un juif qui vient et qui te donne un siman, tu dois lui rendre. Pourquoi tu dois lui rendre si tu me dis qu'il m'appartient? Je dois lui rendre, mais c'est seulement l'ifni mishurat hadin. Ça veut dire, c'est seulement mieux que le din.
Et là, il n'y a pas de différence entre juif et un juif, là.
Si, ce cas-là, on parle d'un cas dans lequel...
Oui, et donc?
Ah, on n'a pas encore dit qu'est-ce qui se passe si une majorité de juifs.
Non, de... Si c'est un non-juif qui vient...
Quoi? Non, j'ai pas... ça c'est sûr, j'ai pas l'obligation de lui rendre.
Non, mais sûr, t'as pas l'obligation, mais là non plus, t'as pas l'obligation.
Ah, bien sûr, oui, d'accord.
Donc, est-ce que c'est le même cas?
Oui,
ça peut se présenter aussi.
Oui, c'est pareil, si c'est un non-juif qui vient, pareil, tu le rends, les filles Mishurat Hadin, mieux que le
d'accord. D'accord.
Continue la Gemara. La Gemara a dit qu'Iha, la Gemara va nous raconter une histoire pour nous illustrer le fait que même quand alarchiquement parlant, on n'est pas obligé de rendre une perte, si on peut faire Kiddush Hashem et si on peut faire mieux que le din, il faut le faire. Il m'a dit qu'Iha de la voix de Shmuel,
ça c'est pire qu'il y a vote.
Comme l'histoire du père de Shmuel, Ashkar Anach Hamarel et Matbera. Le père de Shmuel, hein, donc on tombe pas loin, on avait Rabbi Yehuda, Shmuel, maintenant on parle du père de Shmuel. Donc une génération en arrière, on raconte qu'une fois, Ashkar Anach Hamarel et Matbera, il a trouvé des ânes dans le désert. Il marchait dans le désert, et il a trouvé des ânes. D'accord? Bon.
Des ânes.
Des ânes, apparemment. Bon.
Des animaux.
Veadrinu les Marayou, il les a rendus à ses maîtres, les Vata Tresaria Cheshata, au bout de 12 mois. Alors ça veut dire quoi? Et donc, il y a les commentaires de Rachid, le commentaire de Tosfot. Moi, je vous expliquais le commentaire de Rachid. Rachid raconte que l'histoire s'est passée comme ça. Le père de Shmuel se baladait dans le désert. Il allait d'un endroit à l'autre, et il a vu des ânes. Bon. Il les a pas touchés. Pourquoi il les a pas touchés? Parce qu'il s'est dit, peut-être que le propriétaire les a simplement laissés ici brouter, il va revenir, il est à côté, qui je suis pour les prendre. Donc, il les a laissés. D'accord? Très bien. Le même père de Shmuel, il revient 12 mois plus tard. Il refait le trajet. Et il retrouve ces ânes-là. Alors, comment ces ânes-là vivaient? Ces ânes-là, ça, a priori, ils ont vécu sauvagement. D'accord? Ils ont vécu sauvagement. On sait, il y a des animaux qui peuvent vivre sauvagement pendant des années comme ça. Il n'y a pas de problème avec ça. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait le père de Shmuel? Le père de Shmuel, il retrouve ses ânes. Donc, alarchiquement parlant, d'après vous, est-ce que le propriétaire initial les a abandonnés? Oui. Bien sûr. C'est évident.
Bon, l'endroit, il était FKR,
d'accord.
Dans le désert,
oui.
C'est comme dans, le, dans la
alors,
mer.
On va dire,
par rapport à ça,
mais quand on le trouve en premier temps, on peut dire peut-être le propriétaire est à côté, le propriétaire est parti se balader, il a
là, c'est des animaux, c'est pas un objet. C'est,
d'accord.
Là, il est...
Peut-être qu'il a laissé ses ânes brouter. D'accord. Le mais là on revient 12 mois plus tard, je le retrouve, même endroit. Alarchiquement parlant, il peut les prendre. Qu'est-ce qu'a fait le père de Shmuel?
C'est dans le désert.
Qu'est-ce qu'a fait le père de Shmuel? Le père de Shmuel, il est parti 12 mois plus tard, donc quand il les a retrouvés, il a compris que le propriétaire les a perdus. Il est parti dans toutes les villes avoisinantes au désert, et il est parti proclamer, non, donc il a envoyé des missiles pour proclamer, qui a perdu des ânes, celui qui a perdu des ânes, il peut les récupérer en donnant un siman, pas sur la forme de l'âne, etc. Ou bien ce qu'il est sur ce que l'âne portait sur lui. Et qu'est-ce qu'on raconte? On dit qu'il a retrouvé le propriétaire de l'âne, et il l'a rendu.
Quelle force.
D'accord? Et ça, c'est l'ifni mishurat
hadin. Allez au
bien que Minadin, alarchiquement parlant, il pouvait le... Alarikman parlant, il pouvait les prendre. Il
pourquoi,
les a quand même rendus.
Pourquoi quand
ça
veut dire que, par exemple, si je veux donner un exemple toujours avec mon portable et la patinoire, d'accord ? Portable et patinoire, c'est la même chose.
Là,
je suis dans la patinoire. Écoute bien.
Là, je suis d'accord.
Attends.
De rechercher, de missionner.
Je trouve un portable dans une patinoire. Maintenant, je me dis peut-être que c'est une personne qui l'a posé. Donc, je le laisse. Je reviens un mois plus tard, je vois le portable, il est toujours là. Ça veut dire que Dieu veut que je le prenne. Attends, personne ne l'a repris. Le portable, il m'attend. Personne ne l'a vu jusqu'à maintenant. Bon, il était dans un coin. Personne ne l'a vu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux le prendre ou pas? Alarmiquement parlant, je peux le prendre. Puisque le laps de temps qu'il faut pour qu'une personne abandonne son objet, après, il faut estimer pour chaque chose. Mais on va dire que 2-3 semaines, le laps de temps est déjà passé. Alors qu'en parlant, je peux le prendre. Mais si je veux faire Kiddush Hashem, je peux le faire. Encore une autre histoire. On dit Rava, Avasha Kilveazil battrait de Rav Nachman. Rava, il marchait derrière Rav Nachman. Ça veut dire que ici, qui était le maître et qui était l'élève?
Rava.
Rava était.
Il marchait derrière Rav Nachman, donc c'est Rav Nachman le maître.
Rav Nachman était le maître. Et où il marchait? Il marchait Beshuka de Gildae. Il marchait dans un marché.
On dit pas un souk. Shuka.
Oui, Shuka, un souk, oui, c'est la même chose.
Marché, l'araméen, pas, l'arabe. Non, mais pourquoi on dit pas un... Ah, c'est-à-dire, en araméen, c'est Shuka.
Shuka, oui, Shuka.
Et en arabe, c'est Souk,
ouais,
c'est ça.
Ouais.
Ah. Oh, c'est la même racine, hein.
Donc il dit, Be Shuka de Gildae. Il marchait Be Shuka de Gildae, dans un marché de Gildae, ça veut dire de Tanner. Ve Amrele, il y en a qui disent que Be Shuka de Rabanan, c'était dans un marché de Talmidei Chachamim. Ça veut dire quoi, un marché de Talmidei Chachamim? C'est-à-dire que c'est un marché dans lequel il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim. C'est un marché qui était à proximité d'un Beit HaMidrash, donc il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim qui passaient. Bon. Alors, à Marley, et pareil, même style de question. Rava qui pose la question à Rav Nachman, et qui lui dit, « Matzakat Arnaki, si une personne a trouvé ici, dans ce marché, un portefeuille, Mahou, quel est le din? » Ah. Là, c'est déjà différent. Pourquoi c'est déjà différent ici, monsieur Yaakov?
Parce que la majorité de juifs.
Là. Ah, non, j'ai pas dit ça.
Non, mais tu l'as pas dit, mais moi je te dis.
Non,
si tu l'as dit.
Parce qu'il y a marqué marché, certains disent que c'était un marché des sages.
Qu'est-ce qu'il dit dans la note?
Il y en avait beaucoup, mais ça veut pas dire que
c'est des, dans la note.
C'est en majorité.
Regardez la note en bas, qu'est-ce qu'il dit. Marché de sages, Beshuka de Rabanan. Hein?
Je n'ai pas de note, moi.
Dans le marché des sages, ils n'ont pas de note ici? Voilà, dans la note 18.
Attendez.
D'après l'opinion qui est.
La 18. D'après l'opinion qui est.
Ah, majorité de. Majorité de. Voilà. Bon, d'accord, mais on a le même cas que.
Ah, il est malgré tout, c'est une.
On a le même cas.
Ah oui!
C'est le même cas alors.
C'est pour ça qu'il faut voir les notes.
C'est le même cas alors.
Oui, c'est le même cas, mais avec deux autres personnes. Ah oui. Parce que rappelez-vous, on connaît pas la halakha, donc on essaie d'amener des preuves, des histoires qui se sont passées. Donc là, c'est à peu près le même cas, mais c'est attention, c'est pas exactement le même cas. C'est pas exactement le même cas.
Ça, c'est pas un cas qui s'est passé, ça c'est.
C'est un cas qui s'est passé, c'est une histoire.
Il a ma réponse.
D'accord. Donc, Matzakan Arnaki, si une personne a trouvé ici un portefeuille. Mahou, quel est le din? Amarle, qu'est-ce qu'il a répondu Rav Nachman?
C'est à lui.
Il lui a dit, Aré Louchelo, c'est à lui, ça lui appartient. Rava pose la question, il dit « Bah Israël, Zelatan Bas Siman !» Si un juif est venu et il m'a donné un Siman, Mahou, quel est le din? Qu'est-ce que je fais?
Là, il a amélioré le...
D'accord. Donc là, c'est la même question.
La même question.
Qu'est-ce qu'il répond? Là, par contre, écoutez bien la réponse. Amarle, il lui a répondu « Arelu Shelo ». Il lui a dit « Même si un juif vient de donner un Siman, l'objet reste toujours à toi. »
Oui, mais c'est la même chose.
Attends.
Que je pourrais.
L'objet reste toujours à toi. Alors, il a posé la question Rava, à son maître Rav Nachman. Il lui a dit « Bah allô, maître Vitzover !» Il lui a dit, mais la personne est en train de. Il est en train de te crier, il dit, mais c'est mon portefeuille, je reconnais mes initiales. La question que vous avez tous posée tout à l'heure. Va allo Omed Vetsover. La personne est là, en train de crier. Il dit, mais c'est à moi. Le propriétaire est là, il dit, c'est à moi.
Attends, je vais...
C'est de l'autre sens qu'on tourne.
Non, je sais.
D'accord. Qu'est-ce qu'il répond Rav Nachman? Il dit, Nasa Kemi Shetsover Al Beito Shenafal Val Svinato Shetavabayam. Il dit, ça change rien que la personne crie. Il dit, c'est comme une personne qui est en train de crier sur sa maison qui est tombée, et sur son bateau qui s'est noyé dans la mer. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que tu as retrouvé ton objet, mais c'est fini. Ton objet est déjà perdu, c'est déjà trop tard. Donc c'est ça la réponse. D'accord? Mais, Néanmoins, qu'est-ce qu'on a appris avant ?
On a appris
avant que si tu veux faire mieux que le din, tu veux, pas de problème. Pas de problème. Mais Rav Nachman a répondu, la halakha, Rava. C'est quoi la halakha ? La halakha, il lui a répondu, il lui a dit, si tu veux savoir la halakha, la halakha est que tu gardes l'objet.
Il y a une majorité de canadiens.
Même si le propriétaire initial, par circonstance des choses, va te retrouver, quand même, tu gardes l'objet. Mais, si tu veux faire mieux que le din, tu le rends.
Ça c'est une chose, ça mieux que le dit.
D'accord.
La halakha,
si tu le gardes.
Le Rav Shimon ben Elazar, voilà, si on garde l'objet.
Quand tu parles de la bourse, c'est quoi comme bourse ?
Alors,
c'est une bourse.
Enfin, quand on en.
Si c'est une bourse, genre portefeuille, avec des simanim, etc.
Si c'est quoi ?
Si c'est une bourse.
Oui.
Genre portefeuille.
Oui.
Avec des simanim, tu ne peux pas considérer qu'on rentre dans ce cas-là.
Si.
Parce que là, le propriétaire, il n'a pas abandonné.
Non, c'est la même chose.
La majorité des
bourses. On avait dit que l'assemblée de Bédine, il dit que. Pour
faire ça, il n'a pas payé où, Jean-Claude. Je vais te donner un exemple.
Oui, mais là, il ne parle plus de.
Non, il n'a pas payé où.
On va te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, ça, tu vas mieux comprendre. Regarde. Imagine-toi que tu perds un portefeuille avec tes initiales dans le marché aux puces.
Oui.
T'as déjà le marché aux puces ? T'arrives ? Bon.
J'ai été au souk de Marrakech, j'ai perdu un portefeuille là.
Bon.
Si, j'étais au souk de Tel Aviv.
Bon, alors voilà, tu vas au souk de Tel Aviv. Non, on va dire un marché de non-juifs. Tu vas au marché aux puces. D'accord ? Imagine-toi, tu vas marcher Kremlin Bicêtre, voilà, il y a beaucoup de monde. D'accord. Bon, disons que tu étais parti une fois, ta femme est amenée.
Oui,
partie.
Une fois.
D'accord. Tu perds, tu sais que tu l'as perdu là-bas. Tu sais que le dernier endroit où tu as vu ton portefeuille, c'était là-bas.
J'ai fait Youch.
Très bien.
Direct.
Maintenant, sur son portefeuille, il y a tes initiales, il y a ta carte d'identité, il y a tout ce que tu veux.
Là-bas.
Très bien. Il y a tout ce que tu veux.
Marcher.
Oui, attends, deux secondes. Donc, toi, dès que tu rentres à la maison, tu réalises que tu as perdu ton
portefeuille.
Très bien. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là ?
Tu paniques.
Tu fais Yehouch ou pas ?
Parce que tu vas pas savoir où tu l'as perdu, donc pas chercher.
Si, on se rappelle à peu près le dernier moment où on a touché le
verre. Barbès, Kremlin Bicêtre, je fais Yehouch.
Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu fais Yehouch. Très bien.
On se rappelle pas, j'ai un cas
maintenant. Maintenant imagine-toi, maintenant on passe d'un autre côté. Maintenant moi je suis celui qui va trouver ton portefeuille.
Cette nuit même.
Écoutez bien ce que je veux dire. Maintenant moi je suis celui qui va trouver ton portefeuille. Je trouve ton portefeuille, Yaakov. Donc moi je vois écrit YO, bon, je reconnais pas que c'est à toi, il y a pas de, bon, on va dire qu'il y a que de l'argent.
J'ai une preuve, qu'il abandonne.
De toute façon, on va finir le cas.
Mais
je trouve le portefeuille, je vais voir le Rav, qu'est-ce que le Rav me dit ? Le Rav me dit, écoute, tu l'as trouvé au marché aux puces, on estime que certainement le propriétaire initial l'a abandonné. Donc qu'est-ce que je fais avec le portefeuille ?
Je le garde.
Je viens en Betrabad et je sors le portefeuille, mon joli portefeuille avec l'argent, je regarde ce que j'ai trouvé. Yaakov, il me voit avec le portefeuille, il me dit, mais c'est moi qui l'ai perdu au marché aux puces. Alors je lui dis, moi je lui dis oui, c'est toi qui l'as perdu, mais tu l'as abandonné. Yaakov dit non, je ne l'ai pas abandonné, je l'ai jamais abandonné.
Bien sûr, parce qu'il a fait opposition à sa carte.
D'accord.
Il est pas fou.
Voilà. Yaakov dit non, je ne l'ai jamais abandonné. Qu'est-ce qui répondra le Rav dans ce cas-là ? Le Rav répondra, on considère que tu as abandonné ton objet, et même si Yaakov, tu m'as retrouvé parce que Dieu a fait Ashgacha Pratit, je peux garder l'objet. Oui. Je garde le portefeuille. Oui. Même s'il y a un siman, tout ce que tu veux.
T'inquiète pas, il va
mais,
d'accord.
Si je vais faire l'ifni Mishur Atadim mieux que le din, je rends.
Parce que le tribunal a considéré que tu as abandonné l'objet.
Bien sûr.
Mais si le tribunal avait considéré que tu n'avais pas abandonné l'objet,
bien
ça marche
sûr.
Pas.
Voilà.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai dit que dans le cas du portable, c'est un cas un peu compliqué.
Un peu compliqué, voilà.
Parce que le cas du portable, en général, une personne n'abandonne pas son portable tout de suite.
C'est vrai. C'est quoi la différence entre les deux cas, là ?
C'est du portable.
La différence entre les deux cas, c'est que...
Les deux ont le même avis sur la question.
Ben non.
Mais un, il fait valoir le Kiddush Hashem, et l'autre, il dit...
Non.
Et l'autre, il dit...
La différence entre les deux cas, c'est que un, il a répondu la stricte halakha, et l'autre, il a répondu mieux que le din. En vérité, les deux, ils sont d'accord.
C'est pareil, les deux, c'est la même chose.
C'est des histoires, c'est pas des répétitions, ça, c'est des histoires.
Si, parce que dans l'un, ça nous apprend qu'il y a les deux dans l'un.
Comment ?
Oui.
C'est-à-dire, on a le din, qu'il a le droit de le garder, et aussi, en même temps, de faire Kiddush Hashem.
Oui.
Donc qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette histoire ?
Rien du tout. Ça nous apporte. Je vous explique, Avery.
C'est
que ce qu'on a ici, c'est que comme on a
oui, mais si tu veux faire mieux
une
que
question,
le dit, dois,
comme on a une question,
moi je veux pas faire mieux que
le s'il vous plaît. Sonia, il pose la question, il dit qu'est-ce qu'on a rajouté dans le deuxième cas. Ce qu'on a rajouté dans le deuxième cas, c'est très simple. C'est que, quand ici, nous on ne sait pas s'il a l'alakha comme Rabbi Shimon ben Elazar ou pas. On ne sait pas s'il a l'alakha comme lui. Et comme on ne sait pas s'il a l'alakha comme lui, on va essayer d'amener une preuve de rabbanim qui sont venus après Rabbi Shimon ben Elazar pour voir comment on faisait à l'époque. Donc, plus de preuves on peut amener, le mieux c'est.
Oui, mais quand ce sont des preuves différentes, mais là c'est la même chose.
Oui, mais c'est la même chose qui s'est passé avec deux rabbanim différents.
Différent.
Dans le premier cas, c'est passé avec Rav Yehuda et Shmuel. Dans le deuxième cas, c'est passé avec Rava et Rav Nachman. Donc ça veut dire que on t'a dit, même si tu me questionneras Rav Yehuda et Shmuel, j'ai encore une autre preuve. Je suis Rava et Rav Nachman. Donc plus de preuves on peut amener, le mieux c'est.
Deux mois, trois mois.
Vous comprenez ?
On va ramener toutes les preuves des rabbinim qui sont d'accord avec ce...
Des fois ça arrive. Bon. On raconte encore une autre histoire. D'accord ? Écoutez bien cette histoire. Ahou Dayo, Marie continue, il y a une histoire, il y avait une histoire avec un Dayo. Donc Dayo c'est un... Dayo c'est un... Comment on appelle ça Dayo ? Dayo c'est... C'est un... Comment il traduit Dayo ? C'est pas un corbeau.
D'ailleurs.
Un vautour. Un vautour, voilà. Ahou Dayo, il y avait un vautour. Une histoire avec un vautour. Des Shakil Bisra Beshuka. Qui a pris de la viande. Tu te rappelles Yaakov Dukas ?
Ouais.
Qui a pris de la viande au marché. Veshad Yebetsanyeta de Vema Merion. Donc il y avait une fois un vautour qui a pris de la viande au marché. Il est passé au marché, il y avait un boucher qui vendait de la viande, il a pris un gros morceau de viande. Vous savez que le vautour il aime la viande. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les fait quand il y a des spectacles avec des vautours. Comment on les attire ? Avec des morceaux de viande. Vous avez déjà vu un spectacle avec des vautours ?
Dans un marché ?
Dans un marché, ouais. Donc il y avait une fois un vautour. D'accord ? Donc le vautour c'est un prédateur.
C'est un rapace.
D'accord ? De Shakil Bitra Bechara.
C'est un charognard, plus qu'un prédateur.
C'est quoi ?
Un charognard.
Il est passé.
Ah, c'est pas un prédateur ?
Non.
Bon. De Shakil Bitra Bechara, qui a pris de la viande au marché. Veshad Yabetsanyeta de Vema Marion, il a jeté cette viande-là, il a fait tomber dans le jardin de Bar Merion, entre les palmiers, donc de quelqu'un qui s'appelait Bar Merion. Et vous savez que les palmiers, ça pique. Donc quand un oiseau qui fait tomber un objet dans des palmiers, est-ce qu'il va descendre le chercher ? Oh. Non.
Dans ce café rouge, je veux dire.
Très bien.
L'oiseau, le boucher.
Atal et Kamé d'Availlé. Bon. Maintenant, donc le problème c'est quoi ? C'est que Bar Merion, écoutez bien le cas que je suis en train de dire ici. Bar Merion habitait à proximité du marché. Il habitait à proximité du marché. Le vautour a pris un gros morceau de viande. Apparemment, le morceau était trop gros. Il est tombé entre les palmiers. L'oiseau a eu peur. Il est parti. Cette personne-là est venue voir Abaye. Il lui a posé la question. Il lui dit, qu'est-ce que je fais avec ce morceau de viande ? Est-ce que je peux le prendre pour moi ou pas ? Ou est-ce que je dois le rendre au boucher ?
Ça implique que le boucher, c'est cachère.
Maintenant, oui, justement. Ça implique que le boucher, c'est cachère. Maintenant, on va se mettre à la place du boucher. Imagine-toi, monsieur David, tu es boucher. D'accord ? Boucher avec un R à la fin. Et tu vois un vautour qui vient te prendre un morceau de viande. Est-ce que tu abandonnes ce morceau de viande ?
Non, tu vois qu'il est en train de...
Tu vas la trace.
Hein ? Non, mais d'après toi, monsieur David.
Complètement.
Complètement, c'est fini.
Ça dépend. Tu auras
maintenant, après toi, le boucher, tu suis de près, donc regardes. Tu vois, t'es dégoûté, tu vois ton argent partir comme ça. Et tu vois que, pic, le morceau de viande, il tombe chez Barmerion. Tu vas faire mal, tu dis, monsieur, excusez-moi, il y a un vautour qui a pris un morceau de viande, il a fait tomber dans votre jardin.
Tu préserves, il y a eu des histoires, c'est des enfants qui...
Oui, tu préserves, bien sûr. Quelle est la halakha ? D'après vous, ne regardez pas la suite.
Attends, est-ce que...
On analyse ensemble. Quelle est la halakha ?
Est-ce que le Bedin considère que le propriétaire...
Regardez pas la... Levez les yeux de la Gemara.
Est-ce qu'on considère...
Il a fait Yehouch, comme on dit, donc forcément, il a abandonné. Attends,
est-ce qu'il peut ne pas faire Yehouch ? Est-ce que quelqu'un peut ne pas faire Yehouch ?
Oui, s'il voit le vautour qui... Là, où est-ce qu'il s'attend ?
Oui, il va voir le vautour. Mais c'est fini, le vautour il a pris un morceau. Personne quand on retrouve un morceau de viande avec quand un vautour là.
Attends, est-ce qu'on est dans le cas où le boucher il va suivre déjà le vautour ?
Parce il suit le vautour ou pas ?
Comme il a fait tomber à proximité du marché.
Bien sûr, le boucher, il a pas le temps de regarder, il voit le vautour qui prend un morceau de viande, le vautour il fait 100 mètres, et pshht, le morceau de viande
il tombe.
Un vélo, il te vole ton vélo.
Voilà, tu le suis 100 mètres, tu le suis.
Là, tu cours, c'est fini, tu peux plus l'attraper. Un vélo, il est en train de parler dans les airs.
Mais il est tombé à proximité.
Oui, mais au moment où le vautour il a pris l'objet.
Mais un vol de vautour.
Oui, mais pas
vautour. Mais un vol de vautour, en une minute, il est à Orly.
Non.
Un peu plus.
Non, à proximité, on a dit qu'il est tombé le morceau.
Oui, mais pour lui, à proximité, c'est déjà loin.
Mais c'est trop tard. Mais
c'est quoi, à proximité ?
Ah, non.
Au moment où le vautour, il a pris l'objet.
Et tu vas pas le voir.
Proximité, donc le boucher, il est pas au
courant. Écoute-moi bien.
Écoute.
Un oiseau, quand il vole
maintenant, si je vois l'oiseau passer derrière l'immeuble, ça va être...
David, écoute bien ce que je te dis. Au moment où le vautour a pris l'objet, le boucher a abandonné déjà ce morceau de viande. Il a fait Yehouch. Même si après, par une circonstance des choses, le vautour a fait tomber son morceau de viande dans un endroit dans lequel il y a des pics.
Pour estimer le laps de temps.
Oui. au moment.
Pour la situation,
c'est pas situation, c'est évident que c'est comme ça.
C'est pas évident.
Mais c'est pas, il faut estimer le laps de temps que tu vas faire Yahoo.
Imagine-toi que le boucher.
Pas tout de suite.
Attends, laisse-moi. Que le boucher, c'est pas la première fois.
Alors, avant de voler la viande, pour un beau tour.
Avant d'analyser.
C'est pas courant.
Change rien.
C'est pas la première fois.
Change rien.
Il sait que. Attends. Il sait que la dernière fois, il a pris un morceau de viande et que la viande, il a fait Yahoo et que la viande, elle avait été en l'air
compté. Là, d'accord.
Et que là, le vautour, il a pris mon souvenir encore plus gros.
Oui.
Donc il sait qu'il va pas tenir longtemps. Donc là, il fait pas Yéhouch.
D'accord, effectivement. Il faudra prouver ça, Benzine. Il faudra prouver que c'est pas fait Yéhouch. Par exemple, il faudrait qu'il dise aux gens autour de lui, ouais, je vais le rattraper ce moment, il va tomber chez Marion. D'accord, pas de problème. Là, c'est pas ce cas. Là, c'est un cas que.
Donc le propriétaire.
Un cas standard. Le propriétaire, c'est sûr qu'il a fait Yéhouch.
Donc la viande, elle appartient.
D'accord. Donc quel est le din? Qu'est-ce qu'il répond à Abayé? Atal et Kamé d'Abayé, il est venu devant Abayé. Donc c'est Bar Marion qui est venu devant Abayé. Il a posé la question, il dit qu'est-ce que je fais? Amarle, Abayé, il lui a dit, Zil shkol le nafjar.
Voilà.
Tu peux prendre le morceau de viande pour toi. Tu le gardes. Kipit, tu le gardes.
Kipit, ça veut dire garde le
d'accord.
C'est un nom, ça, Bar Marion.
C'est pas un arabe.
Je crois que c'était la région, moi.
Bar Marion. Alors, Tagmar a dit, Beha, Rouba de Israël, Linou. Maintenant, on va analyser ce cas. Voilà. Si tu me dis que c'est un marché cachère, donc la majorité des passants sont...
Des juifs.
Ah oui, tu me dis de la viande cachère. Donc certainement, la majorité des passants sont des juifs, on est bien d'accord.
C'est pas sûr.
Véha.
Et quand on a dit qu'il y avait beaucoup de sages dans le marché,
si vous voyez pourquoi
c'était pas...
Justement. La majorité sont pas juifs.
Très bien. Parce que là, c'est un fait encore une fois, c'est pas des hypothèses. Véha dit, Véha, voilà, Rouba d'Israël, dans ce marché-là... C'était un marché dans lequel cachère, il n'y avait que des juifs qui feraient. La majorité des. Bien sûr, il peut y avoir des goyim qui viennent pour acheter aussi de la viande.
Mais
la majorité des gens qui passent, c'est des juifs.
Voilà une preuve là.
Shamat Mina, de là j'apprends que.
De deux halakha d'un coup.
Que. Halakha ki Rabbi Shimon ben Elazar, afilou, berov Israël. De là, j'apprendrai que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, même si c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs. Pourquoi? Parce qu'on considère que certainement le propriétaire initial a abandonné.
Mmh.
Est-ce qu'on peut dire comme ça?
Oui.
Agma a dit non.
Elle rejette.
Elle dit Shani, c'est différent ce cas-là du vautour.
Parce que.
Pourquoi? Des kezuto sheyan dami, que une fois que le vautour a pris l'objet, c'est pas comme si j'ai perdu un objet. Dit comme ça, un grand chidouche que dit l'Agma ici. Elle dit que quand un vautour me prend un objet, c'est pas comme si j'ai perdu un objet dans le marché et que peut-être je peux le retrouver. Quand un vautour prend un objet, c'est considéré comme si je l'ai perdu dans la mer. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand j'ai jeté un objet dans la mer, alachiquement, on considère l'objet comme si il n'existe plus. C'est pour ça. Quand, par exemple, je prends du chametz, avant Pessah, et que je le jette à la mer, alachiquement parlant, on considère que le chametz n'existe plus. Il n'existe plus dans le monde. Si je le jette au marché, il est là. Mais quand on jette quelque chose dans la mer, alachiquement parlant, cet objet est considéré comme perdu. Comme si qu'il n'existe plus dans le monde. Le chidouche que la Gemara nous dit ici, c'est quoi? C'est que quand un vautour te prend un morceau de viande, ce moment-là, c'est considéré comme si que l'objet est perdu. C'est fini. Irretrouvable.
C'est logique.
C'est logique. Donc, est-ce que ça ressemble au cas de Rabbi Shimon ben Elazar? Non. Le cas de Rabbi Shimon ben Elazar parlait d'un cas un peu plus standard. Donc, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar? On ne sait toujours pas. Puisque le cas que tu m'as amené, c'était un cas très spécial. C'était un cas comme si tu avais fait tomber au fond de la mer. Donc est-ce que la recommande Shimon ben Elazar? On ne sait toujours pas. Agmara va ouvrir une petite parenthèse. Agmara a dit, on va juste analyser un autre aspect du cas que tu viens de me raconter, le cas de la viande. Ah Mara, voilà, Ravadi. Basar, Shinit Alamina Aïn. Cette viande-là n'était pas enveloppée. Alors, c'est une viande que le vautour a pris, donc c'est une viande qui était nue. Voilà, Ravadi, Basar, Shinit Alamina Aïn, de la viande qui a quitté les yeux. D'accord? Ça veut dire qu'on l'a perdu de vue. Assou, on n'a pas le droit de la manger. Pourquoi? Parce qu'une fois que la viande est devant nous, on peut facilement interchanger la viande cachère avec la viande pas cachère. Ah ouais, donc la viande qui a été perdue
de vue.
Donc, il pose la question, il dit, mais d'où tu sais que ce vautour-là...
Oui.
D'où tu sais que la viande que le vautour avait dans son bec est une viande cachère?
Bien sûr.
Oui, parce que ça peut être un autre temps.
D'accord.
Ça pourrait être ça, il peut y avoir deux vautours qui volent deux morceaux de viande en même temps.
Bon.
Le même qui vole.
Alors, comment il a pu permettre la viande à manger? Le Rashba explique qu'en vérité, si une viande qui n'est pas cachère, on a le droit d'en profiter. Il aurait pu la revendre. D'accord. Mais puisque Abaye ne lui a pas dit va la revendre, il lui a dit tu peux la prendre, ça veut dire que Abaye l'a permis de la manger. Comment il a pu permettre de manger cette viande? Parce qu'Abaye a suivi l'opération.
Ah ben non, ils disent pourquoi.
Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? Voilà,
c'est une question. Dans un cas où on a suivi depuis.
Oh, maître, et où tu as raison, c'est une bonne question que tu poses, mais ici, il y a un détail que tu manques, c'est quoi? C'est qu'on parle que Barmerion a suivi. Barmerion a suivi, il a vu l'histoire se passer. Il a vu le vautour prendre la viande, il a vu le vautour faire tomber.
Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi Barmerion il peut le faire et pourquoi le boucher ne peut pas le faire?
Parce que le boucher...
Pareil, si lui...
Non, le boucher, direct. Il a fait Yéhouch à l'instant où...
Mais si lui, dans le cas où Barmerion, il arrive à suivre...
C'est boucher ou c'est boucher?
Non, mais là, j'ai rejoint.
Il arrive à suivre le...
Voilà, si, toi.
Si, tant que le boucher, il a toujours la vue...
Il a observé la viande depuis le moment où le retour l'a pris.
Il n'a pas fait Yéhouch.
Il a une jambe, mais t'as pas compris.
Ah non. Si, parce que s'il va le lever pour le laisser retomber à plusieurs mètres... Mais là, c'est ce qu'on voit.
Où il a jeté
je vous expliquer.
Il a suivi la scène, bah, ouais.
Puisque le rave, puisque
le
rave.
Il l'a pas fait.
Attendez, laissez-moi finir. Il faut bien comprendre quelque chose. Le boucher, quand il voit que le vautour a pris sa viande, un vautour, c'est fini, tu peux abandonner la viande.
Oui.
Même si le vautour a pris un trop gros morceau.
D'accord.
Ça, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Non. Même si le vautour a pris un trop gros morceau et qu'il va le faire tomber, faites-moi confiance, le vautour va retomber et va reprendre le morceau. Il va redescendre, il va reprendre le morceau.
D'accord.
Le cas qu'on a eu ici, c'est un cas de circonstance, qu'il a fait tomber son morceau de viande, où il l'a fait tomber?
Dans le
palmier. Dans des palmiers.
On est dans ce cas.
D'accord. Donc là, le vautour ne retombe pas de parce qu'il a peur de se faire piquer. Ça fait mal. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le boucher, même pas un instant, c'est ça ce que la Gemara a dit, le boucher, même pas un instant, il comptait retrouver sa viande. Même si après, par la circonstance, à Kadosh Baruch Hu a fait que la viande est tombée tout de suite, Barmerion n'a aucune obligation de rendre la viande. Bien sûr, après, s'il veut faire mieux que l'usine, il fait ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'on va essayer de trouver ensemble...
Non, je sais pas,
on va essayer de trouver ensemble un cas...
À cette logique.
Pourquoi vous n'avez pas cette logique?
Parce que ça, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que on voit que le Rav, comme lui, il a vu l'envolée de cette viande, et elle était à la portée de ses yeux, donc il n'a pas déclaré taref,
oui.
Parce que c'est toujours la même.
Oui.
Et le boucher, qui lui, avant de l'annuler, il peut se dire, s'il va la relâcher dans quelques mètres,
maintenant... Non, le boucher, il dit pas ça.
Non.
Mais ça, t'as pas de preuve.
Attendez, mais justement, statistiquement, le boucher...
La logique, c'est que tant que je visualise ma viande, une fois qu'elle est partie, je peux plus rien faire, je l'abandonne. Mais tant que je la visualise, si dans quelques mètres, il va relâcher la viande, je désespère pas. De perdre
comment je l'espère pas? Il va la reprendre tout de suite, le vautour.
Non, pourquoi?
Mais parce que c'est évident.
Non, il a pas tombé dans un palmier, il peut pas l'en...
Mais, monsieur Daniel, monsieur David.
Et moi, mon vélo, tant que je le voyais, avec le voleur, là, tant que je le voyais, je l'ai pas abandonné.
Monsieur, excusez-moi, attendez.
Je l'ai pas abandonné.
Excusez-moi.
Pour moi, j'ai toujours une chance.
Le nombre de chances qu'il y a que votre viande va tomber dans le palmier, c'est 1 sur 1 milliard. C'est impossible.
Mais tant que je la vois cette viande, je l'abandonne pas.
Oui, mais on est dans ce cas.
Pas du tout.
Mais sûr, c'est un
peu pas, je peux pas l'abandonner.
Apparemment, ça
pourquoi? Parce que j'ai...
Attends, s'il est à 100 mètres de hauteur et
par ma vision, j'ai
fini.
Par ma vision,
j'ai abandonné.
Non, par ma vision, j'ai un espoir qu'il puisse passer quelque chose et que je peux la récupérer.
Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer?
C'est parce que je la vois, je suis toujours attaché.
C'est fini.
Non, je suis toujours attaché avec elle par un sens.
Le boucher est occupé.
Quand ce sens, il y aura plus de contact. Je suis d'accord avec vous, mais tant que je l'ai, comme je disais, mon vélo, quand il est parti avec, je le voyais au loin,
oui.
Je ne l'ai pas abandonné, parce que j'ai dit peut-être je peux faire quelque chose,
d'accord.
Courir, parce que vous, il va glisser avec le vélo, je vais tomber,
bon,
je vais
frapper,
mais monsieur
après,
Daniel,
quand il a tourné,
pourquoi c'est un mauvais exemple? Parce que dans votre cas,
on n'est pas dans ce cas,
Daniel, dans votre cas,
dans le cas où il y a quelqu'un qui a vu la scène,
je crois bien, je plaide votre...
Non, j'explique, dans le cas où vous avez perdu votre vélo, d'accord, le vélo que vous avez perdu, il y a, on va dire, une chance sur 20 que vous pouvez la retrouver.
Il m'a été volé.
Non, il vous a été volé, donc, mais vous vous dites, peut-être que je vais courir.
Non, je parle de l'instant.
Je finis.
Ouais.
Dans le cas que vous avez perdu votre vélo,
non, excusez-moi.
Qu'est-ce qui se passe dans votre
je
tête?
Je ne l'ai pas perdu, on me l'a volé, et j'étais à l'instant, je courais derrière le voleur.
Vous l'avez perdu votre vélo, il est perdu maintenant. Dans le cas où vous perdez votre... Donc, on vous a volé votre vélo.
Il n'est pas perdu pour l'instant.
Vous courez derrière la personne.
Mais
donc,
c'est pas
vous avez, s'il vous plaît, vous avez une chance sur 20 ou sur 50 de le retrouver. Peut-être que quelqu'un va vous voir en train de courir, il va arrêter le vélo. Peut-être que je ne sais pas ce qui peut se passer.
Exactement.
Très bien, peut-être qu'il peut glisser.
Donc, je ne perds pas mon espoir.
Dans quel cas on est?
Dans le cas du vautour, c'est pas le même cas. Dans le cas du vautour, il n'y a pratiquement aucune chance de le retrouver.
Mais là, on voit que le cas s'est passé. ils nous le disent clairement, ah, oui. Et qu'effectivement la viande elle a été retrouvée. Donc oui. Ça prouve que le cas il existe. Donc quand le cas il existe.
Mais pas du tout, c'est un cabisme apparemment.
On parle du cas de celui qui l'a trouvé,
pas rien dans la chazara.
Bon, le cas, le cas nous l'amène là. Que...
Il était sûr.
On n'est pas dans le cas de celui qui l'a perdu, on est dans le cas de celui qui l'a trouvé là.
Hein? Monsieur Daniel, c'est le même nombre c'est le même nombre de chances que vous allez récupérer votre argent.
Non mais.
Mandy,
tant qu'il y a une chance, il y a de.
Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie.
Il y a de l'espoir, il y a de la vie. Donc on ne peut pas abandonner totalement.
Oui, il faut faire Yahouch à un moment.
C'est ça la logique.
Imagine-toi, t'es là, c'est un mouton, il vient.
Est-ce que vous avez remarqué un détail intéressant de l'histoire?
Mais là, on est dans l'action.
Vous avez remarqué le détail de l'histoire, c'est que.
Parce que l'avion, ils l'ont retrouvé.
On ne nous parle même pas du boucher. On ne nous parle même pas du boucher.
On ne parle pas du boucher, on parle que de celui qui l'a trouvé.
On ne parle même pas du boucher.
C'est un cas particulier.
Vous avez remarqué ou pas?
Le rab, il a vu la
scène. Est-ce que vous avez remarqué? Attends, on va faire une enquête. On n'a même pas parlé du boucher, là. Le boucher, on n'a même pas parlé de lui.
Mais là, l'histoire du rab nous amène une preuve qu'effectivement, il peut y avoir un cas 1 sur 1000, mais ce cas, il peut exister, que la viande, on peut la retrouver. À partir de là, si ce cas, il existe, on ne peut pas dire que le boucher, à 100%, il va l'abandonner. Parce qu'il a toujours un espoir.
Il a abandonné son objet, le boucher, M. Daniel.
Daniel.
La Gemara nous a dit que quand un vautour vous prend de la viande, pour vous, c'est considéré comme si que l'objet a été perdu, mis du monde. C'est comme si qu'il a été jeté à la mer.
Voilà.
C'est tout, c'est comme ça que ça se passe.
Ça, c'est un cas.
Bon, Dieu préserve que ça vous arrive jamais, mais c'est comme ça. Une fois que le vautour le prend, c'est fini, c'est trop tard. On n'espère pas le retrouver.
Mais là, on parle du cas.
Je voulais vous donner un exemple, regardez. Imaginez-vous que vous posez une bague. Posez une bague sur votre balcon. Un diamant sur votre balcon, il y a un pigeon qui vient, il la bouffe. C'est fini, dans vos têtes, elle est finie, elle est perdue là-bas.
Vous ne
pouvez même pas la retrouver. C'est pas comme le portable à voler. C'est la même chose. D'accord ? C'est la même chose. Impossible de le retrouver.
C'est le pigeon qui est perdu.
N'entendez pas ce que je dis. S'il existe une possibilité, je ne peux pas l'abandonner.
Bon, ok.
Et là, cette possibilité, on nous montre qu'elle est...
Ouais, non.
Qu'elle a existé, puisque la viande allait retomber. Donc ça nous prouve que...
Alors dans ce cas-là, ce que vous devrez faire, vous devrez prouver au Beit Din que vous n'êtes pas comme tout le monde, et que bien que tout le monde en général abandonne l'objet, vous ne l'avez pas abandonné. Mais il faut le prouver ça.
Moi,
vous avez vu là, sur 4 qu'on est ici...
Moi c'est mathématique, non mais moi je comprends pas que vous ne compreniez pas.
Ah non,
on comprend ton
cas,
mais on
n'est pas Daniel, dans ce cas-là.
Moi, c'est mathématique, parce qu'on nous apporte une preuve qu'effectivement, la viande, on a pu la retrouver, donc ça existe, que je suis en train
mais
de
non,
dire.
C'est un cas spécial, ce cas qu'on a retrouvé.
Il n'est pas dans ce cas, messieurs, reprenez
à partir de là,
allez, on avance, allez.
Chazara, monsieur. Rabbi Hanina, vous allez réfléchir, vous allez voir qu'au contraire, c'est pas parce que ça arrivait une fois que statistiquement ça arrive. Le propriétaire qui s'est fait prendre sa viande.
Comme ça peut arriver.
Mais alors ?
Comme ça
propriétaire qui s'est fait prendre sa viande, il a abandonné sa viande.
Comme ça peut arriver, donc la personne, elle ne doit pas abandonner. Sur le moment.
Okay.
Après, quand il n'y a plus aucune possibilité, je suis d'accord avec vous.
Si la personne prouvera au Beit Din,
et on amène la preuve qu'effectivement, la viande, elle est retombée.
Une personne normale, M. Daniel, abandonne sa viande. Pour lui, c'est comme je vous donnais l'exemple d'une bague. D'accord ? C'est fini, elle est perdue, la bague. Bref, trop tard.
Je sais pas, j'ai trop d'espoir.
Même si on a un espoir de pouvoir retrouver, mais la personne a déjà fait Yahouch. Rabbi Hanina, Matza, Vidi, Shachut, Ben Zariel et Tibori. Rabbi Hanina a trouvé une fois, donc toujours encore une dernière histoire, Klagmar raconte, on finit avec ça. Rabbi Hanina a trouvé une fois Gedi, donc un chevreau, Shachut, qui donc déjà fait la Shrita, Ben Tiberial et Tibori, entre Tiberial et Tibori. Veitiru lo chachamim. Donc Veitiru lo, les chachamim lui ont permis de le manger, de le prendre et de le manger. Amar Rabbi Ami lui a répondu, Rabbi Ami a expliqué, Itiru lo mishum metia. Le fait qu'ils lui ont permis de prendre cet objet-là, de le prendre et de ne pas le proclamer, c'est parce que Mishum Metia, pourquoi ils l'ont proclamé? Parce que eux, ils pensent que Rabbi Shimon ben Elazar. On pense comme Rabbi Shimon ben Elazar, que Rabbi Shimon ben Elazar indique qu'une pierre qui a été trouvée dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on considère que le propriétaire l'a abandonné. Maintenant, deuxième question qu'on pourrait avoir sur ce cas-là, c'est peut-être la Shechita a mal été faite.
Ah oui.
Alors il dit, Mishum Shechita, que Rabbi Hanania Benosh Rabbi Sakeli. On lui a permis, comme Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yosef Lili. Shalom, tu veux faire ça après, s'il te plaît? On y revient dans 10 minutes. Des Tania, c'est enseigné. Are Shavdulo Gedaya Vetarnegolav. C'est enseigné comme ça. Si une personne a perdu, Gedaya Vetarnegolav, ça veut dire s'il a perdu son chevreau ou son coq. Ve'alach Umtsan Shechutim. Non, je les pose quelque part. Je reviens quelques heures plus tard et je le retrouve, les mêmes coques, même truc, je retrouve même Siman, mais il y a quelqu'un qui a déjà fait la shrita. Est-ce que je considère que la shrita a bien été faite ou pas?
Mais non, attends, excuse-moi.
Attends, deux secondes. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda il interdit. Pourquoi Rabbi Yehuda interdit? Rabbi Yehuda interdit, il dit parce que peut-être la shrita a mal été faite. Mmh. Il faut savoir, excusez-moi, laisse-moi finir le cas. Une fois que la shrita a été faite, il n'y a aucune manière de savoir est-ce que la shrita était bien faite ou pas. Impossible. Là-bas, c'est un boucher cachère qui vendait de la viande cachère. Il suffit que le couteau de la personne qui a fait la shrita avait des...
émoussé.
D'accord, était émoussé. C'est fini, la shrita n'est pas cachère. Alors, le cas, c'est quoi? Moi, je laisse mes chevreaux. Je les retrouve 2 heures plus tard. Enfin, l'endroit où je les ai laissés, fait la shrita. Quel est le lit? Ouais. C'est le mien. Attendez.
Question.
Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda il interdit. Pourquoi Rabbi Yehuda interdit? Rabbi Yehuda interdit parce que Rabbi Yehuda il dit de faire que la shrita n'a pas bien été faite. Rabbi Hanania beno shel Rabbi Yehuda Glili Mati. Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yehuda Glili, il permet de le manger. Parce que lui il dit certainement que la shrita a bien été faite. Je conclue le cas. Amar Rabbi, Rabbi Yehuda dit Nir in divre Rabbi Yehuda keshemetam behashpa. Rabbi il dit comme ça. Il dit que ce que Rabbi Yehuda a dit que c'est interdit, c'est logique que chez Metzan Bahashpa, lorsqu'on a trouvé le même, lorsque je retrouve mon coq dans une poubelle, fait la shrita. Que là, s'il est dans la poubelle, ça montre que certainement
il a raté
la shrita. Mais Rabbi Hanania ben Noach Rabbi Yosaglili chez Metzan Babayi.
Je sais pas comment.
Les paroles de Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yosaglili, ils sont applicables quand j'ai retrouvé mes coques, pas dans la poubelle, mais dans un endroit posé normalement. Là, ça montre que la shrita a bien été faite. Donc, je résume le cas. Après, il y a les questions. Rabbi Hanina a trouvé un chevreau entre Tibériade et Tibori. Ce chevreau était déjà fait la shrita. Donc, on a deux problèmes ici. C'est quoi les deux problèmes qu'on a ici? Premièrement, est-ce qu'il peut le prendre? Est-ce qu'il doit le proclamer? Deuxièmement, est-ce que la shrita a bien été faite ou pas?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils lui ont dit les Chachamim à Rabbi Hanina? Ils lui ont dit, tu peux le prendre. Ça veut dire que les Chachamim ont répondu...
Mais tu peux pas le consommer.
Si, tu peux le consommer, justement. Les Chachamim, tu peux le consommer. Les Chachamim ont répondu aux deux doutes. Ils ont dit, par rapport au premier, la première question qu'on avait, est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on considère qu'il a été... Est-ce qu'on considère qu'on peut le prendre? Ils ont répondu, oui, tu peux le prendre. Donc, a priori, comme Rabbi Shimon ben Elazar, qui a dit que, puisqu'il y a une forte affluence, tu peux le prendre. Sur la deuxième question qu'on avait...
Ils ne sont pas égorgés encore dans la première question.
Alors. Si. Il dit Shachut, on dit.
Alors, comment tu peux le
justement,
consommer?
Sur la deuxième question qu'on a posée, on a dit, oui, mais qui te dit que la shrita a bien été faite? C'est pour ça qu'on a ramené le cas de Rabbi...
Tu peux le prendre, mais tu peux pas le consommer.
Mais attendez, écoute ce qu'on doit dire, écoute. C'est pour ça que on a enseigné le cas que si une personne a perdu son chevreau ou son coq et il l'a retrouvé quelques heures plus tard avec la shrita, c'est vrai que Rabbi Yehuda a interdit, mais Rabbi Hanania a permis.
De les prendre.
Non, pas de les prendre, de le manger. Ils sont à moi, c'est moi qui les ai laissés, mais ça je les reprends.
Non mais tu les as laissé, la shrita a été faite entre
temps. Je te donne un exemple.
J'ai raté un passage.
Il y a la, oui, je crois que tu as raté quelque chose. Imagine-toi que Baruch HaShem, à la synagogue ici, on a une cour. On a une cour, d'accord. Tu viens le matin, tu viens avec ton coq pour faire la shrita. Tu poses ton coq, tu l'attaches, tu le laisses. Tu vas aux toilettes, tu vas étudier à la synagogue, etc. Tu reviens 2 heures plus tard, tu retrouves le même coq, Siman et tout le même. Fais la shrita. Qu'est-ce que tu fais? C'est le tien, tu le reprends, bien sûr tu le reprends. Mais est-ce que tu considères que la shrita a bien été faite ou pas?
Toi, tu considères, toi?
Alors, écoutez bien, il y a une marque loquette ici. Rabbi Yehuda a dit non. Tant que tu ne l'as pas vu, peut-être la shrita a mal été faite. Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Yosef Glili, a dit si le poulet n'est pas à la poubelle, s'il est resté dans un endroit normal, ça veut dire que certainement la shrita a été bien faite. Donc, tu peux garder l'objet. C'est pour ça que quand Rabbi Hanina a trouvé son chevreau, les Chachamim lui ont dit, tu peux le prendre et tu peux le manger. Alors, maintenant on va analyser cette histoire pour essayer de répondre à notre question. Mais des tirulos Chachamim, puisque les Chachamim lui ont permis de le manger, d'accord, Mishum Shrita, puisque les Chachamim lui ont permis de le manger et ils ont dit qu'on peut le prendre, de là j'apprends que Rouva Israël et nous, de là j'apprends qu'on est obligé de dire que la majorité des gens qui étaient dans cette ville-là, c'était des juifs. Parce que si c'est pas des juifs, d'accord, si c'est peut-être des arabes,
la question ne se pose pas.
Donc puisqu'on lui a permis de le manger, ça veut dire que la majorité des passants entre Tibériade et Tibori, c'était des juifs.
Juifs.
Et pourtant, Shamat Mina, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Alacha ki Rabbi Shimon ben Elazar, que la Alacha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Quand c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, tu n'as pas besoin de le proclamer, même si c'est un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs. D'accord ? Comme le cas d'ici. Amar Rava. Rava a dit. En vérité, Rav Kenani. Je peux toujours te dire que, quand j'ai fini avec ça, vous aurez la Chazara. Amar Rava, Rava a répondu, il a dit, ici on parle d'un cas de Rav Kenani. En vérité, tu as la majorité des passants ici, c'était des Cananéens. Donc, est-ce que c'est le même cas que Rabbi Shimon ben Elazar ?
Oui.
Est-ce que c'est le même cas que Rabbi Shimon ben Elazar ? Rabbi Shimon ben Elazar a dit qu'on peut le prendre l'objet même si c'est une majorité de juifs. Qu'est-ce qu'il répond ici, Rava ? Il dit non, en vérité, la majorité des passants ici étaient des non-juifs. Ah, alors comment on a pu lui permettre de le manger ? Il répond, il dit, pourquoi la raison pourquoi on lui a permis de le manger ? Rof tabaché Israël. Parce que la majorité des abatteurs dans cette ville-là étaient des juifs.
Oui, la majorité, mais
c'est la force des Chachamim qui ont dit, puisque la majorité des abatteurs sont des juifs, on considère que c'est un certain juif qui a fait la shrita. Fort.
Non, il n'y a personne qui va...
Si, cachère, moi tu me le redonnes, je l'ai repris. Si la Torah te dit...
Si pas sûr à 100%, tu ne mangeras jamais.
Oui, mais apportez-moi la Chachamim,
il te permet.
La
même bouche qui t'interdit, c'est la même bouche qui te permet.
Je deviens cachère.
Donc, est-ce qu'on a répondu à notre question ? On a posé la question, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar ?
Oui.
Non, on n'a pas répondu à la question.
Si, là.
On a répondu à la question que dans un cas dans lequel il y a une majorité de Cananéens. Hein.
Voilà.
Mais dans le cas dans lequel il y a une majorité de Juifs, on ne sait pas.
On sait pas ce qu'on fait.
C'est ça.
Alors, dernier cas. Hein.
C'est ça.
Dernier cas. Hein. On raconte que Rabbi Ami, Ashkar Parguiot, Rabbi Ami a trouvé des Parguiot. Vous savez ce que c'est des Parguiot ? C'est quoi les Parguiot ?
C'est quelque chose.
Parguit.
C'est le morceau de poulet, non ?
Oui.
C'est la hanche du poulet, non ?
D'accord.
C'est
quoi les Parguiot ?
Entre le cuir.
Comment ils traduisent les Parguiot ? Des petits oiseaux, des... Comment il traduit par guette ici ? Je peux rien savoir comment il traduit en français.
C'est pas bon.
Ici là, voilà, 24
pigeons. Des pigeons.
Il a trouvé des pigeons. D'accord ? Shrutot, Ben, Tiberial et Tibori. Donc il a trouvé
encore,
des pigeons, toujours entre Tiberial et Tibori. Ah, t'as les camés de Rabbi Assi. Il est venu devant Rabbi Assi. Ve Amrele, les camés de Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent que c'est pas devant Rabbi Assi qu'il est venu poser la question. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ces oiseaux ? Mais c'est devant Rabbi Yochanan. Il y en a qui disent qu'il est venu ni devant Rabbi Assi, ni devant Rabbi Yochanan, mais il est venu au Bet Midrash tout simplement pour poser la question. Bon, peu importe les détails.
Jusque-là, je comprends.
Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit ? Zil, Shkol, Lenafshar. Ils lui ont dit, tu peux les prendre, il n'y a pas de problème. D'accord ? Encore une autre histoire. Rabbi Yitzhak Nafra. Ça nous apporte rien. Puisque la majorité, c'est toujours des juifs.
Pareil.
Rabbi Yitzhak Nafra. Ashkar Kippouré. Des Azlebe Azlouye.
Les non-juifs, je veux dire.
Rabbi Yitzhak Nafra a trouvé, d'accord, donc
des rouleaux de cordes.
A trouvé des rouleaux de cordes. Alors, en passant, le commentaire nous dit, le Ravad il explique que ce cas-là, en vérité, le cas de Rav Ami nous apporte quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui nous apporte quelque chose de nouveau ? Ce qui nous apporte de nouveau, c'est que en vérité, avec ce cas-là, on a une preuve que la halakha comme Rabbi Shimon ben Elazar, même dans lequel il y a une majorité de juifs. Écoutez bien pourquoi. Parce que la différence qu'il y a entre le cas d'avant et le cas d'ici, c'est quoi ? C'est qu'avant, on parlait d'un chevreau, alors que maintenant, on parle d'un pigeon. C'est quoi la différence entre un chevreau et un pigeon ? C'est David, tu es avec nous ?
Oui, je vois.
C'est quoi la différence entre un chevreau et un pigeon ?
C'est que le chevreau, peut-être, t'es obligé de l'égorger
pour le manger. Le chevreau, je suis obligé de l'égorger pour le manger.
Alors que le pigeon.
Alors que le pigeon, je suis pas obligé de l'égorger. Chacun peut le faire à la maison comme ça. Donc,
oui,
de là,
bah c'est bon.
De là, explique le Ravad.
On ne fait pas une shrita aux pigeons ?
Oui, bien sûr.
Oui, mais...
Ça veut dire que c'est certainement un juif qui a fait la shrita. Quand c'est un cadre, quand c'est un chevreau, même un goy, il est obligé de l'égorger. Donc si la majorité des abattoirs sont des juifs, ben certainement il aura une shrita.
Quoique je ne sais pas, remarque, en vérité,
imaginez-vous que dans la ville de Paris, la majorité des abattoirs, c'est quand on va dire, pour simplifier, on va dire tous les abattoirs sont des juifs.
Ouais.
Donc si un goy maintenant il a envie de manger de la viande, qu'est-ce qu'il fait ? Il l'amène à l'abattoir. Qu'est-ce qu'on va faire à l'abattoir avec la viande ? On va faire la shrita.
Ouais.
Très bien. Donc c'est un juif qui a fait la shrita, c'est devenu de la viande cachère.
Ouais.
Très bien. Mais qu'est-ce qu'on a dit ? C'est pour ça qu'on a dit que c'est pour ça peut-être que dans le cas de tout à l'heure, c'est pour ça qu'on a permis de manger cette viande. Parce que même si on va dire que la majorité des passants sont des cananéens, mais puisque la majorité des abattoirs sont des juifs, donc certainement que la shérita était bien faite.
On lui permet.
Mais on n'a toujours pas répondu par rapport à Rabbi Shimon ben Elazar, parce que peut-être que la majorité des passants sont des non-juifs, mais que c'est les abattoirs qui sont cachers. Pourquoi dans le cas des pigeons c'est différent? Là, c'est un point qui est assez fin à comprendre, mais je vais vous laisser la chazara pour comprendre. Pourquoi dans le cas des pigeons c'est différent? D'accord? Oui. Pourquoi dans le cas des pigeons c'est différent?
Mais parce qu'on l'a dit.
Parce que dans le cas des pigeons c'est différent, hein, parce que je suis pas obligé de passer par l'abattoir. Je peux le faire à la maison. Donc si je trouve, et celui qui fait à la maison, il va pas faire la shrita. Enfin, je vais faire la shrita avec un couteau comme nous on fait. Donc si je trouve, si tu me dis que je trouve un oiseau avec la shrita, ça veut dire que la majorité des passants sont des juifs, et ça veut dire que ça a été fait par un juif. Donc de là, le Ravad va amener une preuve que, dans cette histoire-là, on amène la preuve que l'Halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, et d'ailleurs c'est comme ça l'Halakha, l'Halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, voilà, même dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs.
Pourquoi ?
S'il y a une forte affluence, même si la forte affluence est juive,
dans le 6,
d'accord, même si la forte affluence est juive, je peux garder l'objet même s'il a un siman. Donc si je trouve stylo avec les, si je trouve un Mont Blanc avec
tout,
les initiales,
on a le droit de manger l'animal. C'est la même chose, mais c'est l'objet, non, l'objet, non.
C'est le même concept.
L'objet, on n'a pas dit ça pour l'objet.
Et si.
Et pourquoi on le proclame pas?
Justement. Donc si je trouve, si je trouve dans le, attention, un endroit dans lequel il y a une forte affluence. Si je trouve un stylo Mont Blanc dans le souk de Tel Aviv. Donc est-ce que la majorité des passants sont des juifs?
Ouais.
Oui. Avec des initiales. C'est écrit dessus DA. DA, c'est qui DA? D'accord, ou AD, AD. Enfin, je peux garder le stylo. J'ai pas besoin de le proclamer. Parce que la lachèque en Moshe Manalazar.
Et pourquoi? Pour quelle raison?
La raison est qu'on considère que le propriétaire initial l'a déjà abandonné.
Mais même quand c'est...
Même si c'est majorité de juifs. Parce qu'il dit, il y a des gens, on sait pas qui tourne, je l'ai abandonné. C'est un fait. Même si on oublie quelque chose dans un marché de Tel Aviv, on l'oublie, c'est fini. Tu l'abandonnes.
Mais on n'avait pas
vu. Je conclue. Rabbi Yitzhak Nafra, Ashkar Kibora, Dehazlebe Azlouye.
Donc à conclure, c'est pas la Gemara.
C'est les notes, c'est pas moi.
Où?
Vous verrez, tu verras en bas, tu verras dans le Khazara et les notes. Rabbi Yitzhak Nafra, Ashkar, tu verras dans les notes sur l'histoire de Ravami. C'est-à-dire qu'ils vont l'amener. Normalement, ils vont l'amener. 29. Voilà. Le Ravad, tu vois, ici, dans la note 29, il vous dit ce que j'ai dit. Rabbi Yitzhak Nafra, Ashkar Kibora, Dehazlebe Azlouye. Rabbi Yitzhak Nafra a trouvé, toujours pour illustrer, mais c'est toujours la même chose, il a trouvé des rouleaux de cordes que les chasseurs utilisent pour faire des
pièges.
Des
filets.
Très bien. Atal Kamed Rabbi Yochanan. Donc, il a trouvé ça dans un endroit dans lequel il y avait
ils
des.
Ils ont trouvé un cas quand même pour avoir. Un seul cas, on a le cas des pigeons.
Atal Kamed Rabbi Yochanan, oui.
Surtout, on a trouvé. Tout ce qu'on a fait, on a un seul cas.
Et pas tout le monde est d'accord avec le Ravan. Hein. Atal Kamed Rabbi Yochanan.
C'est pas...
On voit qu'il y a des... Atal Kamed Rabbi Yochanan. Il est venu devant Rabbi Yochanan. Vamrele Bevé Midrasha. Il y en a qui disent que c'est pas devant Rabbi Yochanan qu'il est venu, mais il est venu au Beta Midrash. Vamrele, ils lui ont dit, Zil Shkol Le Nafshach. Ils lui ont dit, tu peux le prendre pour toi. Alors là, explique les commentaires. Dans ce cas-là, c'était un cas qui avait un siman. Il y avait un siman dans la corde, mais c'est un endroit dans lequel il y avait une majorité de Cananéens. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu peux le prendre. Dans les deux dernières histoires qu'on a ramenées, c'est des histoires toutes petites, des histoires très courtes. Mais une histoire, elle parlait d'une majorité de Cananéens, une autre histoire parlait d'une majorité de Juifs, et dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a vu? La halakha était que si c'est un endroit dans lequel il y a une forte affluence, on peut garder l'objet, même si l'objet est un siman. La Gemara s'arrête ici. C'est ça la conclusion de la Gemara.
Et en plus, tu peux même...
On continuera à Bezrat Hashem la semaine prochaine.
On va pouvoir faire la distinction, juste non, juste à part dans le cas du pigeon.
Aucune distinction. La halakha, c'est qu'il n'y a aucune distinction.
Ah, je trouve important.